bien sûr, et nous allons étudier à l'espace Mendès France. Ça sera une journée grand public. L'espace Mendès France est un centre de culture scientifique, technique et industrielle. Il y en a à peu près une trentaine en France, dont la vocation est de faire connaître la science au public, ou plutôt, comme dit Lévy Leblond, de mettre la science en culture. Donc, je me posais la question de ce matin, de savoir combien de conférences sur le vivant nous avons fait depuis que l'espace Mendès France a 20 ans. Donc, je me tourne vers Yves Sénatiempo, qui est là depuis très longtemps, qui a été un de nos anciens présidents, qui est maintenant directeur scientifique de l'espace Mendès France, et je pense qu'on en a énormément. Et en fait, nous n'allons pas cesser de parler du vivant. On en a parlé dans le cadre des conférences qui sont liées à nos expositions, et aussi dans le cadre, bien sûr, du pôle InfoSanté, et aussi dans le cadre des conférences d'histoire des sciences et de philosophie des sciences. Bon, c'est dans ce cadre-là que cette journée d'études, cette journée de réflexion sur la nanotechnologie a lieu, parce qu'on entend parler partout, mais Yves Sénatiempo en parlera mieux que moi, on entend parler partout. J'ai fait venir il y a quelques années un jeune doctorant qui est intervenu devant les Amphis du Savoir en première année fac de sciences. Il y a expliqué sa thèse qui justement était sur la nanotechnologie. J'étais étonnée de trouver un historien des sciences qui travaillait là-dessus, donc j'ai sauté sur l'occasion. Il viendra lors de nos prochaines, il s'appelle Augustin Cerveau. Et il est vrai que la méconnaissance n'est pas seulement la vôtre. Enfin, je pense que vous en savez plus que nous. La méconnaissance vient aussi de nous. Donc, comme le dit Yves, on est passé des biotechnologies aux nanobiotechnologies, donc il faut pouvoir l'expliquer. Ensuite, l'intérêt et puis l'originalité de nos journées, c'est d'être interdisciplinaire. Donc, je voulais d'abord remercier tous les conférenciers qui sont là d'avoir accepté de venir chez nous. Je sais que pour certains, ils viennent de loin. Ils ont passé la nuit à Paris. Ils sont là ce matin tôt. Donc, c'est vraiment très sympathique de leur part. Ce sont des gens motivés par le sujet, qui travaillent depuis longtemps sur le sujet. Et l'interdisciplinarité veut que nous aurons aujourd'hui des juristes, des gens qui travaillent dans les laboratoires, des personnes qui travaillent sur le vivant et aussi une historienne des sciences qui est déjà venue chez nous deux ou trois fois, qui s'appelle Bernadette Benzot-Vincent, et qu'on aura beaucoup de plaisir à accueillir ici aujourd'hui. Voilà, c'est une journée où qu'on a décliné de façon à ce que vous ayez des informations sur ce sujet. Ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un débat, bien entendu, avec la salle. Il se passe en ce moment dans 17 villes de France des réunions citoyennes et avec des scientifiques aussi sur les nanotechnologies en général. Nous, l'espace Mendès France est tout à fait habilité à proposer des journées d'études sur les nanobiotechnologies, nanotechnologies, puisqu'on en propose 5, n'est-ce pas Yves? Et c'est à cela qu'on travaille avec nos amis de l'école de l'ADN qui nous ont aussi, qui sont partenaires dans cette manifestation. On voudrait qu'il y ait plus de monde, mais là, c'est déjà pas mal. On est content d'avoir des jeunes qui s'intéressent à ce sujet, parce que je pense qu'il est possible soit qu'ils s'intéressent à ce sujet pour penser peut-être des problèmes de société plus tard, ce qu'on espère, ou alors pour en faire un métier. Donc, bon, parce qu'il y a certainement de l'avenir, entre guillemets, professionnel lié à ces nanotechnologies. Donc je pense que j'ai oublié de dire pas mal de choses. Je voulais simplement excuser Didier Moreau qui n'est pas là, donc le directeur général de l'espace Mendès France qui aurait bien aimé être parmi vous, et Mario Cotron, président de l'espace Mendès France, qui ne peut pas venir non plus, mais je vais vous passer la parole au directeur de l'école de l'ADN, Laurent Fillon, et ensuite Yves Sénatiempo, directeur scientifique de l'espace Mendès France, dira un mot, mais c'est lui qui aurait dû commencer à ma place, mais bon, c'est comme ça. Merci beaucoup, merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. On est là, on est à votre disposition. Il y a des ouvrages qui sont là, vous posez toutes les questions que vous voulez et vous pouvez aussi discuter avec les intervenants. On est là jusqu'à 18h ensemble et restez avec nous. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Ces rencontres du vivant pour l'école de l'Éden, c'est finalement une troisième édition. On avait en 2007 parlé d'OGM et l'an dernier, on s'est intéressé à la révision de la loi de bioéthique. Finalement, toujours dans le même esprit, d'échanger, de s'informer. C'est vrai que pour nous, c'est un point important. J'écoutais hier une grande radio française, pour ne pas la citer, France Inter, où par exemple, on parlait des nanos et où on avait un appel à dire « ne débattons pas, c'est une mascarade, tout est joué ». Finalement, c'est vraiment pour nous important que de dire « il faut discuter, il faut échanger sur ce développement des nanotechnologies ». Aujourd'hui, en fait, finalement, sur cet aspect nano, on a démarré par une conférence introductive de Dominique Vinck, qui est venu rappeler en fait à la nécessité le 10 novembre d'échanger, de discuter, et qui d'ailleurs a fait une conférence où à aucun moment il n'a souhaité définir ce que sont les nanotechnologies, parce que c'est un champ finalement très vaste, et donc modestement a dit moi je peux pas vous définir, voilà. Donc je pense qu'il y aura pas, on aura certainement besoin de ces 3 ou 4 journées d'études pour vraiment prendre le temps d'échanger, sachant que dans un an, le 10 décembre, en fait, il y aura une journée vraiment dédiée aux aspects sociétaux, donc liés à ces nanotechnologies. Je ne vais pas parler plus longtemps, alors juste je vais laisser peut-être Christian peut-être dire 2-3 mots. Il arrive. Christian est le président de l'école de l'EDN en Poitou-Charente. Donc on va lui laisser le temps de s'installer, 30 secondes, puis après on démarrera rapidement pour ne pas prendre de retard, parce qu'on s'est promis de ne pas laisser filer l'horloge. Donc, est-ce que tu veux rajouter un mot ou deux, Christian ? Donc, voilà.
Non, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. Excusez-moi d'être arrivé un petit peu à la bourre. Non, simplement pour dire que je suis évidemment très heureux que l'école de l'ADN soit associée à cette manifestation qui a été montée en collaboration bien sûr étroite avec l'Espace Mendès France, qui en a été la cheville ouvrière. Et je remercie tous ceux qui se sont mobilisés pour que cette journée remporte un succès que je crois déjà acquis vu la programmation. Donc bonne journée à tous et j'espère que ça va nous faire progresser dans la réflexion.
Merci. Bon, je vais demander à Alain Daban de venir. Vous avez face à vous les deux modérateurs de la journée. Alain Daban est actuellement consultant au CHU, professeur d'université, spécialiste de cancérologie et de radiothérapie, notamment. Et donc, il aura sûrement son mot à dire en tant aussi qu'intervenant et puis pour animer cette journée, car tout au long de sa vie professionnelle, il a été confronté à la problématique de thérapie de pointe dans le domaine de la cancérologie. Or, ce sont des aspects que l'on va aborder largement au cours de la journée. Donc, je vais te céder la parole avant de la reprendre dans quelques instants.
Merci. Donc, effectivement, je suis médecin, cancérologue. Un consultant, ça veut dire à la retraite, en fait, quoi. J'ai quitté mon activité de soins il y a un an. Donc, je suis consultant, je m'occupe maintenant de santé publique. Bon. Mais enfin, je suis très encore intéressé par tout ce qui concerne soins en cancérologie. Et je suis toujours professeur de cancéro à la faculté de médecine de Poitiers. Je suis un peu également le candide, parce que dans le domaine des nanobiotechnologies, je dois reconnaître que c'est un monde que je découvre et que nous sommes en train de découvrir. Alors, je vais modérer la matinée, c'est-à-dire que je vais veiller à ce que les orateurs restent dans les clous, du temps, et puis essayer aussi de vous faire parler, de vous faire poser des questions. Je crois que c'est important, et également d'en poser moi-même. Alors, je vais introduire maintenant la première intervention, celle d'Yves Sénatien-Pau. Alors, qui, je vous le rappelle, est professeur de biochimie et de biologie moléculaire à l'Université de Poitiers, qui est également le coordonnateur du pôle biologie santé, qui regroupe l'université, le CHU et des unités CNRS et INSERM. C'est un rôle important pour dynamiser un peu la recherche, en particulier dans le domaine de la cancérologie à Poitiers, et qui est également, on vous l'a dit tout à l'heure, directeur scientifique de l'espace Mendès France. Alors, sa conférence introductive a pour titre, vous avez dit, nanobiotechnologie, point d'interrogation. Et il a 3 quarts d'heure pour nous parler de tout ça.
Merci beaucoup. Alors, la première des choses que je vais faire, c'est d'enlever ma veste. Je vous conseille de vous mettre à l'aise parce que la caractéristique de cette salle, c'est qu'elle n'est pas très bien thermorégulée et il y fait très chaud. Alors, mettez-vous à votre aise. De toute façon, je pense qu'il faut que ce soit une journée assez décontractée où on peut interagir. On n'est pas ici pour les présentations ex cathedra sans réaction. Donc, bienvenue à vous si vous voulez poser des questions. Même en cours de route, je n'y verrai pas d'objection. Voilà, donc comme c'est un exposé introductif, je m'excuse par avance auprès des autres intervenants qui vont suivre, parce que je vais sûrement marcher sur vos plates-bandes. J'essaierai d'être le plus discret possible, et puis surtout de vous faciliter la tâche. Ça vous évitera peut-être de revenir sur un certain nombre de définitions. Et puis, si ma présentation est erronée, parce que je n'ai pas la prétention de connaître tous les champs d'application des nanotechnologies et des nanobiotechnologies, c'est-à-dire qui sont déjà larges, vous pourrez rectifier bien évidemment par la suite. Donc vous avez en bas le fil conducteur de ma présentation que vous retrouverez tout au long des diapositives, vous le verrez là-haut, et donc en jaune explicitement chaque fois le thème que je commenterai. Fidèle à une tradition qui est celle de la maison, c'est se mettre un peu, mener une réflexion avec une perspective et aussi essayer de comprendre pourquoi et comment on est arrivé à la situation d'aujourd'hui et pourquoi on parle de nanotechnologie et de nanobiotechnologie. Donc je ne suis pas remonté très très loin, néanmoins je suis remonté au début des technologies, donc c'est il y a quelques dizaines d'années. Et j'ai pris cette définition que j'ai trouvée savoureuse, qu'on peut critiquer beaucoup, hein, qui est application de la science aux arts utiles. Alors, certains risquent de monter au plafond en pensant qu'il y a des arts inutiles. mais bon, je vous laisse des commentaires. Personnellement, j'ai connu dans ma vie professionnelle l'émergence des biotechnologies. Et même si on en faisait depuis longtemps sans le savoir, en réalité, c'est un terme qui est devenu officiel au début des années 1980. Et en France, il y a eu un programme qui était un programme national, Essor des biotechnologies, qui a été lourdement financé et dont mes laboratoires successifs ont profité d'ailleurs. Et c'était les financements d'État assez importants. Donc à ce moment-là, on a assemblé les deux termes pour arriver à cette définition, ne lisez pas tous les détails, mais essentiellement, c'est les applications des sciences et techniques à des organismes vivants. Définition à prendre au sens le plus large, c'est-à-dire que ça peut être la cellule, mais aussi des produits qui sont dits subcellulaires ou intracellulaires. Donc, personnellement, je suis partisan d'une définition très large. Et puis, on rajoute aujourd'hui le terme nano. Alors, le terme nano, c'est vraiment se placer dans le monde très petit. Le monde du nanomètre, que l'on va définir plus précisément, et donc on est à une échelle qui est celle du millionième de millimètre. Donc on est 1000 fois plus petit qu'une bactérie. Et pour illustrer cela, je vais vous proposer une échelle tout de suite. Mais pour certains, on est arrivé aux nanobiotechnologies, non pas par la voie que j'ai indiquée, mais par celle-ci, c'est-à-dire qu'en réalité, on exploite les nanotechnologies dans le domaine du vivant. Alors vous allez voir que finalement, on va concilier les deux approches à partir de l'échelle que je vous présente ici. Cette échelle est une échelle dite logarithmique, parce qu'autrement, je n'aurais pas pu la représenter sur cet écran. Donc, on part du centimètre ici et on arrive au nanomètre à ce niveau-là. Donc, on descend à centimètre, millimètre, micromètre et le nanomètre. Alors, pour donner une idée de ce que ça représente, même si pour ceux qui sont au fond, vous ne voyez pas ce dont il s'agit d'une courbe qui représente la longueur d'un cheveu et son diamètre. Et ici, ce qui m'intéressait, c'était le diamètre d'un cheveu. Ici, on est en gros à un diamètre de 60 micromètres. Bon, on a des cheveux plus ou moins épais, donc on peut avoir des cheveux un peu plus épais que ça, mais on est en gros dans cette échelle-là. Ici, vous avez une bactérie. Donc vous voyez qu'on est légèrement supérieur au micromètre. Pour être dans l'air du temps, le virus de la grippe, que nous rencontrons tous, et vous voyez qu'on est ici, au-dessus de 100 nanomètres, hein, on est légèrement supérieur. Donc, on va arriver aux limites du nanomonde. Et puis, en dessous, à l'échelle du nanomètre, eh bien, on va retrouver les atomes et puis certaines molécules. Et ici, j'ai figuré le cristal de chlorure de sodium qui est de l'ordre de 0,5 nanomètres. Donc, vous voyez qu'entre les deux, ben, il y a tout un monde qui va de 1 nanomètre à 100 nanomètres. C'est le monde que l'on qualifie de nanomonde. Et c'est à partir de ce nanomonde que se définissent les nanotechnologies, qui sont donc les applications des nanosciences. Et on arrive en fait aux nanotechnologies par deux voies. Soit par la voie dite descendante, ou selon la terminologie anglaise, top-down, et vous allez voir comment on y arrive, ou bien alors par la voie ascendante, c'est-à-dire à partir de l'échelle atomique, par une voie ascendante qui est la voie dite bottom-up. Alors ici, ne regardez pas non plus le détail, mais en gros, on considère que lorsqu'on s'adresse au monde vivant, et les biologistes se sont fait des spécialistes de la question, eh bien, les biologistes sont capables de reconstruire à partir de molécules de quelques angstroms, donc à une échelle encore inférieure au nanomètre, et reconstruire des ensembles moléculaires qui se situent dans le domaine du nanomonde, c'est-à-dire dans le domaine nanométrique. Donc on considère qu'en biologie, on évolue plutôt dans la voie ascendante, tandis qu'on arrive aux nanotechnologies et aux nanobiotechnologies dans le monde artificiel, donc pensez à la micro-informatique par exemple, ou à d'autres objets qui sont figurés ici, si vous avez un téléphone, une carte à puce, etc., par une voie descendante, c'est-à-dire qu'on miniaturise petit à petit des objets. Et vous avez tous vu, je prends l'exemple des ordinateurs d'il y a 40 ans, aujourd'hui vous avez la même puissance dans une tête d'épingle quasiment. Et donc c'est vraiment la voie descendante, c'est la voie dite du monde artificiel. Et en réalité, on va s'apercevoir, je pense, au cours de toutes les présentations, qu'on y arrive vraiment par les deux voies et quelquefois allègrement en combinant les deux. Alors, dans cette démarche initiale qui nous amène aux nanotechnologies, après avoir cadré cet environnement, personnellement, j'ai toujours pensé qu'on y était arrivé par aussi un peu l'imaginaire. Alors comment est-ce qu'on est arrivé par l'imaginaire? Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Eh bien, on part de certaines découvertes qui sont relativement anciennes. Et ici, celle que je cite, c'est la mobilité bactérienne. Alors vous avez ici une bactérie avec un élément qui s'appelle un flagelle. Vous avez la même bactérie ici en coupe avec d'autres éléments qui s'appellent des pilies, mais on ne va pas les considérer ici, il y a toujours un flagelle. Et vous avez des vidéos, j'espère que ça va marcher. Comme disait l'autre, à la répétition, ça marchait tout à l'heure. Voilà. Donc vous voyez ici des bactéries qui se déplacent dans des milieux liquides. C'est la même chose, simplement dans un cas, il y a de la fluorescence et pas dans l'autre. Et donc vous voyez que ces bactéries se déplacent avec un mouvement rotatoire, hein, qui est dû à un mouvement rotatoire du flagelle. Et cette découverte date d'il y a environ 50 ans. Alors pourquoi est-ce que les bactéries se déplacent? Eh bien, elles sont toujours en quête de nutriments, donc elles vont s'orienter comme ceci. Alors il y a plein de mouvements bactériens différents, mais il faut bien résumer les choses ici. Et à partir de cette découverte, du fait que les bactéries se déplaçaient, on a mis en évidence ce que l'on appelle des moteurs moléculaires. Et pour ceux qui ne sont pas spécialisés de la question, vous allez être étonnés de voir qu'à l'échelle du vivant, eh bien, il y a beaucoup de moteurs moléculaires. Vous retrouvez ici le flagelle tel que vous le voyez tout à l'heure. Vous avez une représentation à ce niveau-là. Et au niveau de la paroi bactérienne, eh bien, se trouve tout un ensemble de molécules. Ici, vous voyez, c'est 20 molécules et ça date de 1965, donc ce n'est pas très récent comme découverte. Et vous avez littéralement un moteur avec plein de pièces qui sont constituées par des molécules. Vous avez ici une photo de microscopie électronique. Et donc là, vous avez un schéma. Ici, c'est l'extérieur, le flagelle, et ça, c'est l'intérieur de la bactérie. Et vous avez à la base, vraiment la partie moteur. Et tout ça peut tourner grâce à des réactions chimiques. Donc on retrouve la chimie et la biologie à ce stade-là. Avec notamment une molécule qui s'appelle adénosine triphosphate, ou ATP, dont le clivage libère suffisamment d'énergie pour faire tourner tout cet ensemble. En même temps, il y a pas mal d'échanges qui se passent entre l'extérieur et l'intérieur avec des ions qui rentrent et qui sortent. Donc c'est assez complexe, mais tout ça fonctionne de façon coordonnée. Et donc, lorsqu'on a réalisé cela, on s'est dit, tiens, il y a vraiment des moteurs à l'échelle cellulaire. Dans le vivant, il y a des moteurs moléculaires. Et en gros, tout de suite, les chercheurs se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas imiter ça un jour dans des outils qui pourraient être intéressants? Vous retrouvez la même représentation. Je trouve qu'il y a des très beaux montages qui ont été faits. Vous retrouvez ici le moteur tel que je vous l'ai montré tout à l'heure, la base du flagelle, ici le dessus. Et donc ça, c'est la réalité. Et les physiciens et les roboticiens, immédiatement, se sont dit, bien, on va essayer de reproduire ces objets-là. Et vous avez ici un micro-robot qui date d'il y a quelques années. Et je vous assure que ce n'est pas des charlatans qui font ça. Hein. C'est un institut qui s'appelle l'ETH à Zurich. C'est un institut de robotique. L'idée, c'est de mettre une pièce qui ressemble au flagelle et une tête qui est sensible au magnétisme. Donc, avec l'idée qu'en jouant sur des ondes électromagnétiques, par exemple, on peut faire bouger ce micro-robot. Alors, toujours dans la réalité, aujourd'hui, on est à des nanorobots. On est, voyez, qu'on est à la limite supérieure, puisque la dimension, c'est environ 500 nanomètres. Et ces nanorobots, eh bien, aujourd'hui, on sait les faire se déplacer. Je vais vous montrer là une vidéo qui est très, très sympa. Vous avez ici un point qui est une cible. Ici, vous avez la représentation du nanorobot avec le flagelle et la tête. Donc, vous avez une imitation de nanomoteur moléculaire. Et on peut diriger le champ magnétique de telle manière à pouvoir orienter le nanorobot vers sa cible. Alors c'est ce qui se passe, vous voyez que c'est balbutiant, ça hésite, mais finalement ça y va. Et puis à un moment donné, on va changer le sens et on va l'éloigner de la cible de façon perpendiculaire. Donc on va dire qu'à ce stade, c'est quelque chose que l'on sait faire. Donc pour moi, ça je considère que c'est de la réalité, ça fonctionne bien. Eh bien, quel est l'imaginaire qui est derrière? Et là, on arrive en plein dans notre sujet. C'est cette représentation-là qui est de représenter la circulation sanguine avec des globules rouges. Et ici, vous avez une simulation de nanorobot qui aurait un moteur, évidemment, de ce style-là, par exemple, et qui permettrait de guider cet ensemble vers ce que l'on veut. Alors, évidemment, qu'est-ce que l'on veut dans le domaine du médicament? Eh bien, c'est aller taper sur une cible, par exemple une tumeur que l'on voudrait détruire. Et le rêve, on va dire, de certains thérapeutes, c'est de disposer de tels outils qui ne sont pas au point, bien évidemment, aujourd'hui. Mais on sait quand même guider des objets de ce style-là, non pas avec un moteur moléculaire, mais simplement en mettant une espèce de câble, puisqu'on sait guider dans la circulation sanguine, un certain nombre d'éléments. Néanmoins, ça reste encore du domaine de l'imaginaire. Alors, je vais clore cette première partie, non sans vous dire ce que certains doivent ignorer et d'autres savoir, c'est qu'en réalité, on est plein de moteurs moléculaires. Et c'est simplement un petit clin d'œil aussi à l'actualité. Alors, pourquoi à l'actualité? Parce qu'il y a eu des prix Nobel qui ont été remis. Et un des prix Nobel a été remis à une équipe qui travaillait sur la structure tridimensionnelle d'un élément qui s'appelle le ribosome, présent dans les cellules, élément complexe avec, vous voyez, jusqu'à 90 protéines, 90 éléments, plus des ARN, donc des éléments, et ce ribosome sert à la fabrication des protéines dans la cellule. Mais vous voyez qu'il y a d'autres éléments, kinésine, une ARN polymérase, on est plein de moteurs moléculaires, et ici j'en ai représenté un qui est absolument extraordinaire, puisque vous avez une molécule qui s'appelle l'ATP synthase et qui se trouve dans toutes les cellules. Et vous avez en réalité là deux moteurs moléculaires superposés qui tournent parfaitement bien. Comme je disais, il y a des phénomènes de rotation. Donc on a affaire toujours à des moteurs rotatifs dans ce cas-là. Ce n'est pas vrai pour les autres. Et puis avec des échanges entre certains compartiments cellulaires, des échanges d'ions. Ici, c'est du sodium, par exemple. Alors je me suis toujours demandé d'ailleurs, et ça reste pour moi une énigme, pourquoi on ne ressentait pas plus de chatouillis en permanence, parce qu'on est vraiment plein de moteurs moléculaires, on devrait avoir de temps en temps des excitations, peut-être que c'est dû à ça en réalité. Alors voilà une première approche. Donc la première approche, c'est se dire, bon, les chercheurs et puis les développeurs, les industriels, se sont penchés sur la question des moteurs moléculaires et rêvent un jour de pouvoir les utiliser dans des applications, en particulier dans le domaine de la santé, mais on peut imaginer tout à fait autre chose. Deuxième approche, c'est se dire qu'il y a eu des développements d'outils, et ces outils ont été mis au service des nanosciences, donc des chercheurs qui travaillaient dans ce domaine nanométrique, mais aussi au service des applications, donc au service des nanotechnologies. Alors il y en a énormément et je suis obligé aujourd'hui de me limiter. Je vais surtout évoquer ceux qui sont en jaune ici, en oubliant les autres. Alors, premier aspect, on va les regrouper sous le terme générique de microscopie de proximité. Vous avez tous vu des microscopes optiques, vous avez peut-être vu des images de microscopes électroniques. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de microscopes de proximité avec des noms un peu barbares, effet tunnel, champ de force atomique. Je vais illustrer ça. Vous allez voir, on peut le représenter simplement. Et vous allez voir que ce sont des outils qui ont une puissance extraordinaire. Les lasers que tout le monde connaît, tiens, d'ailleurs, il y en a un là qui me sert pour pointer. Eh bien, aujourd'hui, on sait faire des nanolasers. Et c'est, physiquement, c'était quasiment impossible jusqu'à 2009. Donc, c'est vraiment récent. On a des lasers qui font 3 nanomètres aujourd'hui. Et donc, on a ces outils-là. Et avec des outils aussi fins, on peut arriver à développer ce qu'on appelle des pinces optiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de bouger des atomes, littéralement, au sein de certaines molécules, sans les toucher, simplement par des effets laser. Et pour ceux qui viendront, parce qu'il faut bien que je laisse du suspense pour les autres journées, ceux qui viendront aux journées du 10 mars 2010 et du 19 mai 2010, vous aurez des histoires autour de pinces optiques laser par des gens qui travaillent là-dessus et qui viendront de Londres nous en parler. Je vais vous parler un peu des puces à ADN sans aller trop loin parce que ça fait l'objet d'une présentation qui va arriver. Puis je vais parler aussi des nanoparticules et d'autres objets en étant aussi prudent puisque je ne voudrais pas déflorer ce qui va être raconté dans la suite de la journée, y compris dans des critiques sur ces technologies. Alors d'abord, un microscope à champ de force atomique. Pour le décrire, on peut le faire de façon très simple. Voici ici en jaune, marron clair, je ne sais pas comment définir cette couleur, un échantillon, donc la surface, vous voyez, qui est une surface qui n'est pas plane. Et donc la problématique, c'est comment décrire cette surface lorsqu'elle est très petite. A priori, c'est très très difficile à faire lorsqu'on est ici à des échelles du type nanométrique, de l'ordre du nanomètre. Mais il y a un outil qui a été développé, qui a fait l'objet d'un prix Nobel en 1986, donc vous voyez que c'est aussi relativement ancien. L'objet est facile à décrire, un peu plus compliqué dans la réalité. Vous avez ici un bras de levier qui est mobile dans le sens vertical avec une pointe qui est ici. Et la pointe, c'est un élément essentiel. Il suffit d'éclairer par un rayonnement laser ce bras qui est donc mobile pour que lorsqu'il y a un déplacement, ça soit réfléchi vers une photodiode. Et évidemment, derrière, vous imaginez qu'il y a un instrument assez sophistiqué avec beaucoup d'informatique pour pouvoir, au bout du compte, en intégrant toutes les données, puisque cet objet peut se déplacer dans les deux sens, pour pouvoir reconstituer ou visualiser la surface qui est ici. Autrement dit, on passe d'un monde où on voit directement, c'est le cas des microscopes optiques, à un monde où on constitue une image qui reflète la réalité. Avec un avantage certain, c'est que par exemple avec l'électronique on peut jouer sur des couleurs, etc. Et vous verrez qu'on arrive à des images absolument magnifiques. On peut faire de l'art littéralement avec ces objets-là. Mais avec aussi peut-être un effet trompeur, parce qu'on n'est plus vraiment dans la réalité. Donc ça c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire c'est de dire qu'on est Comment se fait ce déplacement? C'est pas tellement par un effet physique direct, c'est-à-dire la pointe qui racle la surface. Non, ce sont des interactions entre les atomes qui constituent la surface de l'échantillon et des atomes qui constituent la pointe de cet outil, de ce microscope. Et du fait de ces interactions atomiques, alors différents modes, et là je ne rentrerai pas dans le détail, vous avez la pointe qui peut vibrer, s'éloigner, se rapprocher, etc. Et c'est tout ça, ce sont ces mouvements qui sont intégrés et qui aboutissent à la représentation de l'échantillon, de la surface de l'échantillon. Deuxième aspect, et ça a été un développement ultérieur, c'est-à-dire c'est arrivé après le prix Nobel, les chercheurs sont arrivés à fonctionnaliser ces pointes, c'est-à-dire à greffer des éléments, pour certains d'ailleurs nanoparticulaires au niveau de la pointe, de manière à pouvoir réaliser des interactions entre la pointe et la surface, voire à modifier la surface par le biais de ces pointes fonctionnalisées. Donc vous voyez qu'on a un outil qui finalement va atteindre plusieurs objectifs. Au départ, c'était un outil d'analyse uniquement. Puis c'est devenu un outil qui permet d'étudier des interactions entre molécules, puisque si vous utilisez, admettons que la surface ici, ça soit une surface, la surface d'une cellule, eh bien vous pouvez mettre sur la pointe un élément qui est supposé interagir avec la surface de la cellule et vous allez pouvoir mesurer l'interaction entre les deux. Et puis toujours le même outil va permettre cette fois-ci d'intervenir directement. Donc c'est la première fois que l'on a affaire à des classes d'outils qui permettent de tout faire quasiment. Et vous allez voir que c'est aussi une notion qu'il faut retenir autour des nanotechnologies, c'est que finalement on n'a pas une approche qui sert à faire une chose seulement, mais on se dote finalement d'outils qui servent à de multiples applications. Donc ça, c'est un élément fondamental parce que vous allez voir que finalement, on a besoin de ces outils pour analyser les nanoparticules, les nano-objets que l'on fabrique et que l'on va utiliser par la suite. Alors voilà un exemple d'utilisation de microscopes à champ de force atomique. J'ai mis à gauche un élément historique. Alors j'ai mis parce que ça me concerne un peu. C'est un travail que l'on avait mené avec des physiciens, et comme il est assez rare dans notre monde d'avoir des interactions entre biologistes et physiciens, des physiciens de Poitiers, nous avions fixé une bactérie sur une surface, et donc nous avons analysé à l'aide d'un microscope de champ de force atomique qui était dans un laboratoire de physique pas trop éloigné du nôtre, et on a sorti une publication simplement de démonstration, on va dire, du fait qu'on pouvait analyser des surfaces bactériennes, même si ici, ça n'est pas hyper précis puisque c'est la bactérie dans son entier. Dans le reste de la publication, on a fait des choses plus précises. Mais vous avez l'empreinte, littéralement, de la bactérie. Alors ici, on avance maintenant vers des données récentes où on est capable de fabriquer des membranes artificielles et de visualiser leur structure par un microscope à champ de force atomique. Vous avez ici deux membranes avec des constitutions différentes et vous voyez que vous aboutissez à des structures complètement différentes. Il n'y a rien à voir entre la partie gauche et la partie droite. En bas, c'est un autre exemple que j'ai pris parce que j'ai trouvé sympathique et aussi très artistique. Vous avez une surface de polystyrène. Le polystyrène est plongé dans l'eau. Et phénomène physique, il reste toujours des bulles d'air à la surface de polystyrène. Ces bulles d'air, en règle générale, vous ne les voyez pas parce qu'elles sont de l'ordre du nanomètre. Et bien, avec un microscope à champ de force atomique, alors là, vous devez avoir une cellule puisque vous immergez l'objet. Eh bien, vous pouvez visualiser complètement ces bulles d'air sur la surface de polystyrène. Et je vous signale que j'ai pris ces éléments sur un site danois avec qui j'ai été en interaction pour leur demander une autorisation, qui s'appelle Science in Your Eyes, que je vous recommande éventuellement de regarder. Vous verrez sur la dernière diapositive que vous avez l'adresse du site internet. Ils font des choses très très sympathiques à voir en tout cas. Alors voilà une utilisation, et gardez en tête que cet outil-là sert en permanence pour tous ceux qui font du développement ou de la recherche autour de ces technologies. Et le 10 mars, nous aurons des films qui seront présentés autour de la microscopie à champ de force atomique, microscopie de proximité et leurs applications. Autre catégorie d'outils que j'aborde ici, ce sont les puces à ADN. Donc on est là dans l'approche dite descendante que j'ai développée au début, que j'ai évoquée au début, où finalement on est passé du tube à essai à ce que l'on appelle le laboratoire sur puce, et je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Mais en parallèle aussi, je voudrais évoquer le fait que l'on est passé très rapidement avec ces méthodologies de la recherche, au diagnostic dans un premier temps, et à la thérapie. Et puis finalement, vous allez voir qu'on lit les deux en permanence. Alors, ces histoires de tubes à essai, bon, vous avez tous vu des tubes à essai dans des labos. Ici, vous avez ce que l'on appelle des microplaques. Alors, je vais en faire circuler puisque j'en ai amené. Tenez, vous pouvez les faire passer. Merci. Alors, qu'est-ce qui a caractérisé ce changement d'échelle, c'est qu'ici, on a des tubes à essai qui existent toujours dans les laboratoires, mais où on utilisait des volumes importants de l'ordre de 10, voire 20 millilitres. Ici, c'est un peu plus petit. Et en gros, quand on était en train de faire une analyse, on utilisait des réactions colorimétriques. Il y a un certain nombre d'années, ces réactions, on les visualisait et on se disait à l'œil, on voyait si ça marchait ou pas. Puis on a eu des instruments qui ont permis évidemment d'analyser les variations de coloration. Et par ces variations de coloration, eh bien, on déduisait un certain nombre de résultats selon l'évolution de la coloration. Et puis sont apparues ces microplaques qui circulent. Vous avez celles qui passent, ce sont celles-ci. Vous avez ici 96 puits dans celles qui sont entre vos mains et avec des volumes qui sont de l'ordre de quelques centaines de microlitres. Donc on est passé en dessous du millilitre. Dans ce cas-là, déjà, vous voyez 96 puits pour le chercheur. S'il doit s'amuser à faire des analyses dans chacun des puits, c'est quasiment impossible. Donc on introduit une notion déjà de robotisation à ce stade-là, soit pour réaliser des expériences dans ces puits, et soit pour la lecture des résultats. Vous avez une nécessité d'avoir des appareils qui commencent à être très sophistiqués pour lire les résultats. Certains sont visibles à l'œil, mais en tout cas, la plupart du temps, vous avez des appareils. Descente encore en échelle. Pardon, je suis allé un peu trop vite là. On est passé à des plaques de 384 puits. Donc, on descend à des volumes qui sont de l'ordre de quelques dizaines de microlitres, voire quelques microlitres. Là aussi, la notion de robotisation est très, très importante. Alors là, j'ai fait un grand saut. Je n'ai pas pris les intermédiaires parce qu'il y a eu des choses au milieu, bien évidemment. J'ai fait un grand saut pour vous amener à la réalité du jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille sur des surfaces miniatures, 1 cm² ici. Alors évidemment, avec des appareils de détection et puis des robots pour fabriquer ces outils-là, et où on peut réaliser des analyses. Alors j'ai symbolisé ici, je vous ai montré ici une analyse de type expression de gènes, donc dans une cellule avec des couleurs, et c'est de la reconstitution de couleurs aussi. Mais simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'on a ici des puces à ADN et des puces, on va dire, sur lesquelles on peut avoir 10 000 objets qui sont déposés. Et donc, vous voyez qu'on on a des puces dites à haute densité. Et on est vraiment dans le nanomonde, dans ce cas-là. Et évidemment, tout ceci nécessite des gros outils technologiques autour. Et n'oubliez pas cet aspect, même si je l'évoque peu dans ma présentation, un problème d'économie qui est très important parce que vous avez des objets qui sont très chers et des outils d'analyse qui sont très chers. Alors, est-ce que ça s'arrête là, l'histoire des puces à ADN ? Eh bien, pas forcément, parce que l'être humain semble ne s'être fixé aucune limite dans ce secteur-là. Et puis finalement, il se dit, puisque je suis capable d'avoir une haute densité sur une petite surface, ben finalement, je vais essayer d'aller jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire mettre un laboratoire sur puce. Alors ici, vous avez un premier laboratoire sur puce. C'était la première génération. Vous avez la taille d'une boîte d'allumettes. Ici, un certain nombre de réactions colorimétriques. C'est pratique. Vous pouvez aller sur le terrain. C'est utilisé en agriculture, par exemple, pour faire un certain nombre d'analyses. Vous avez des réactions colorimétriques et puis vous avez une réponse instantanée. Donc vous avez un vrai labo parce que vous avez développé plusieurs types de réactions et vous avez une réponse instantanée. Et puis là, voilà ce que peut être une puce. Alors, vous avez une échelle derrière, l'œil, par exemple. Une puce actuelle. Et donc, vous avez ici des nanolaboratoires de deuxième génération, enfin de génération récente. Et là, j'insiste sur le fait que tout ceci a été possible par les progrès des techniques dites de photolithographie et puis aussi par la connaissance des mécanismes de microfluidique. Ce qui m'amène à vous dire que on est dans un domaine où on ne peut pas penser comme dans la réalité, on va dire, à l'échelle visible. Aussi bien en termes de physique que de chimie, tout ceci est régi par des lois qui sont complexes et que les chercheurs connaissent et découvrent quotidiennement. Alors je me suis amusé à chercher qu'est-ce qui pouvait être vraiment la dernière des dernières générations. Donc je suis allé chercher une publication qui est sortie il y a quelques jours et qui présente un véritable laboratoire sur puce. C'est une puce en 3 dimensions cette fois-ci. Ici, vous avez dans la dimension supérieure des petits réservoirs qui servent à faire de la culture de cellules. Alors, je ne peux pas vous la décrire complètement parce que ça serait trop long, mais en gros, l'idée, c'est d'amener ici par un liquide, on amène un fluide qui est supposé représenter la circulation sanguine et dans laquelle on va mettre un certain nombre de molécules, des médicaments par exemple. Et les 4 puits ici sont représentatifs les systèmes de culture cellulaire sont représentatifs du foie, du poumon, du rein, du tissu adipeux. Et l'idée qui est développée par les chercheurs qui ont publié, c'est de dire, eh bien, on va essayer de reproduire à l'échelle d'une puce ce qui peut se passer sur l'homme. Et donc leur objectif, c'est la même chose ici avec une symbolique que vous comprendrez, c'est que, et j'ai gardé le titre de la publication intégralement, c'est en direction d'une puce représentative de l'homme. Donc c'est l'idée qu'un jour, on aura sur une puce, peut-être, l'ensemble des tissus constitutifs de notre organisme qui seraient là et où on pourrait étudier des effets, on pourrait mimer des effets de molécules directement. J'attire votre attention sur un phénomène, ça vous paraît incident ici, c'est que si vous regardez les noms des auteurs, vous avez un impact très fort de la communauté scientifique chinoise dans tout ce domaine. Donc c'est un commentaire au passage, mais c'est vraiment absolument extraordinaire. Il y a pas mal d'Indiens aussi, mais les Chinois sont très très présents dans ces développements. Alors j'en viens, donc après avoir fait ce tour, j'en viens maintenant, on va dire, à des applications potentielles. Et j'ai choisi un secteur parce que c'est celui qui m'intéresse, donc il fallait bien que je me fasse plaisir quand même complètement dans cette présentation. Et j'ai choisi la thématique vectorisation en particulier, donc il faut comprendre vectorisation de médicaments. En partant de l'approche dite biotechnologique, donc qui n'est pas vraiment nanotechnologique, et qui est une des applications qui marche aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait préparer des anticorps. Alors je rappelle à ceux qui ne sont pas spécialistes que lorsqu'on subit une agression extérieure, par exemple par un virus, on va produire des anticorps, ou par une bactérie, on va produire des anticorps. Eh bien aujourd'hui, les biotechnologues, enfin même déjà depuis un moment, savent fabriquer des anticorps. Ils savent les fabriquer contre des produits spécifiques. Alors, une explication de texte quand même. Il suffit, entre guillemets, de prendre une cellule humaine, d'isoler ce qu'on appelle des récepteurs qui se trouvent en surface. Je vais revenir sur cette notion de récepteur. D'injecter ces récepteurs chez un animal. En général, on prend le lapin, mais on peut le faire avec d'autres animaux. Étant donné qu'on a introduit un élément étranger, une molécule étrangère, le lapin, enfin l'animal, va produire des anticorps, eh bien on peut récupérer ces anticorps et puis s'en servir comme outil de recherche. Et puis aujourd'hui, on sait faire fabriquer des anticorps par des cellules qui sont isolées. Il y a des usines qui produisent des anticorps. Et il y a des anticorps médicaments. Il y en a un sur lequel je reviendrai qui s'appelle l'herceptine, qui est utilisé en thérapie anticancéreuse pour le cancer contre le cancer du sein. Donc cette approche technologique, c'est le bas de l'échelle, c'est l'échelle moléculaire. Il y a une approche biochimique qui m'est chère, puisqu'elle est développée par une entreprise qui est à Poitiers, dont je suis cofondateur, et qui utilise des molécules qui s'appellent des cyclodextrines, molécules connues depuis très très longtemps, mais qui servent... Alors voilà une cyclodextrine qui a une forme d'abat-jour, vous imaginez un abat-jour. La taille, c'est environ un nanomètre. Donc cet abat-jour, vous savez qu'il y a une cavité à l'intérieur de l'abat-jour. Cette cavité est dite hydrophobe, donc elle peut héberger des molécules qui, en général, se dissolvent très mal dans de l'eau ou dans des systèmes aqueux. Donc on peut masquer ce qu'on appelle l'hydrophobicité des molécules par une interaction avec une cyclodextrine. Donc on a des outils, on a des transporteurs qui, à l'échelle moléculaire, peuvent être utilisés et ont été utilisés déjà dans le domaine du médicament et puis dans plein d'autres applications. Alors je ne vais pas passer mon temps sur les cyclodextrines pour vous dire que ce qui a été développé ici, ce sont des nouveaux concepts. Le premier d'entre eux, qui est connu aussi depuis longtemps, c'est de modifier ces cyclodextrines pour amener un élément de reconnaissance qui va permettre de piloter la cyclodextrine vers une cible potentielle. Et vous allez avoir quelques explications de ce que peuvent être ces cibles potentielles. Et puis on va un peu plus loin en fabriquant ce qu'on appelle des dimères. Vous avez deux cyclodextrines ici, reliées par un pont. Au milieu en vert, c'est un anticancéreux, par exemple une molécule qui s'appelle taxotère. Et l'idée qui a été développée et brevetée, c'est que cette partie qui est en jaune ici, lorsqu'elle s'approche d'une tumeur anticancéreuse, elle est reconnue par des molécules qui sont produites par la tumeur et coupées à ce niveau-là, ce qui permet de libérer au niveau de la tumeur l'agent anticancéreux. Donc ça, ce sont des projets en développement, mais vous voyez qu'on est à l'échelle. On est ici à l'échelle nanométrique, mais à l'échelle de molécules. Ici, on commence à être un peu plus gros, mais on est en plein dans les nanotechnologies. Alors avec des débats, est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas. Il m'est arrivé d'être invité à des congrès sur les nanotechnologies, puis à d'autres, on me disait, ah non, non, vous n'y êtes pas. Bon, alors, on ne va pas faire de débat là-dessus. Pour vous dire qu'on passe de l'échelle moléculaire à l'échelle dite nanoparticulaire. Alors j'ai quand même rajouté micro, parce que finalement, dans ce monde-là, on est parti de microparticules, et les plus connus, on va dire, qui sont utilisés même depuis relativement longtemps, en particulier dans le domaine de la cosmétique, ce sont des liposomes. Les liposomes, ce sont des sacs constitués de phospholipides, donc de constituants de membranes, et on constitue des sacs complètement artificiels. Hein, ça se fait dans des tubes à essai. C'est relativement facile à faire. Ici, vous avez ce qu'on appelle un liposome unilamellaire. Vous avez ici une coupe d'un liposome en microscopie, tiens, un outil que j'ai évoqué tout à l'heure, qui sert à faire ce genre d'analyse. Et ici, une superbe image en microscopie, avec un microscope de champ de force atomique de ces liposomes ici. Ne croyez pas que leur couleur réelle soit celle-là, hein, c'est de la reconstitution de couleur. Par contre, la taille, si on a la possibilité de calibrer, eh bien on sait qu'on est ici de l'ordre de 500 nanomètres. Donc on est vraiment tout à fait au niveau supérieur des nanoparticules. Et j'ai choisi de vous présenter comme autre exemple des nanoémulsions, et je reste aussi dans l'actualité, puisque ici, vous avez la nanoémulsion qui est utilisée pour la vaccination contre la grippe en Amérique du Nord, puisque ce n'est pas une technologie qui a été retenue chez nous. Donc les nanoémulsions, vous en connaissez. Vous avez le lait, c'est une microémulsion, mais vous avez des nanoémulsions, c'est-à-dire que les gouttes que l'on produit, les nanogouttes que l'on produit, donc sont suffisamment faibles pour que les liquides apparaissent translucides. Et donc ici, ce développement permet la vaccination par voie nasale contre la grippe A, et c'est utilisé en ce moment de l'autre côté de l'Atlantique. Vous voyez qu'ici, le mélange, c'est de l'huile de soja, de l'alcool, un mélange alcool-eau et un détergent. Très à la mode, parce qu'on connaît ces termes-là, on les voit passer dans l'actualité, on aura l'occasion sûrement d'en discuter dans la journée et dans les autres journées qui viennent, d'autres outils qui sont donc de taille nanoparticulaire. Donc on est vraiment cette fois-ci calibré, de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres, voire en dessous. Des nanocristaux qui sont utilisés par une société pharmaceutique, et donc il y a déjà des médicaments qui utilisent ces nanocristaux. Puis des molécules qui sont développées par les physiciens déjà depuis longtemps, des fullerènes. Donc vous voyez que ça a exactement la forme d'un ballon de football. Ce sont des molécules qui ne contiennent que des atomes de carbone, et elles sont creuses. Donc vous pouvez imaginer qu'on peut y insérer des molécules à l'intérieur, on peut greffer des molécules à l'extérieur, etc. Et vous allez voir quelle peut être l'utilisation. Et puis des nanotubes de carbone dont on parle beaucoup, parce que des nanotubes de carbone en dehors de la biologie sont très utilisés. Si vous montez dans un véhicule, par exemple, aujourd'hui, je suis sûr que vous côtoyez des nanotubes de carbone en permanence. Vous en avez dans la peinture, vous en retrouvez dans des vitres aussi. Enfin, tout un tas d'applications que l'on verra dans les journées suivantes, avec, on va dire, deux grandes catégories. Des nanotubes de carbone avec une seule... ça fait une espèce de grillage, donc c'est circulaire, donc ce sont vraiment des tubes. Une seule couche, et ici, vous avez des nanotubes polylamellaires. Vous avez plusieurs couches, plusieurs cercles concentriques ici. Alors, vous avez vu ici, jusqu'à présent, des objets creux. Ici, des nanosphères qui au départ sont des nanosphères avec un composé métallique. Alors c'est souvent du titane, des oxydes de titane, de fer, éventuellement d'aluminium. Une des caractéristiques fréquentes des nanosphères pleines, c'est qu'elles sont sensibles au magnétisme. Et ça a son importance, parce que si vous revenez à mon histoire de moteur moléculaire, vous rappelez que c'est la base de l'idée de pouvoir guider un nanomoteur. Alors ici, j'ai pris aussi une publication récente, elle date d'il y a 2 mois. Ce sont des nanosphères creuses. Je vous signale, regardez bien le nom du premier auteur. Donc ce sont des nanosphères qui ont été développées à partir d'une nanosphère pleine, on fait une nanosphère creuse. Et les caractéristiques qui sont résumées, on est sur une taille inférieure à 100 nanomètres, elles sont paramagnétiques. Elles sont rendues fluorescentes, donc on peut envisager d'utiliser cette propriété-là pour les repérer. Elles sont dites non toxiques. Alors je vous dis tout de suite, je n'ai pas vérifié si c'est vrai ou faux, mais enfin les auteurs le clament, et elles sont poreuses. Et ici, je vous ai mis un autre objet qui est, bon, plus de la curiosité, mais dont vous pouvez imaginer l'utilité, c'est-à-dire que vous avez deux nanocapsules qui sont soudées, puisqu'on peut faire de la soudure à cette échelle-là avec des molécules chimiques. Et ici, pour l'exemple, on a inclus des molécules d'or, des nanoparticules d'or à l'intérieur. C'est juste pour les révéler, mais ça peut être utile dans un certain nombre d'applications. Alors, on en arrive vraiment maintenant à l'utilisation. Donc, en santé humaine, avec les éléments fondamentaux qu'on va retrouver, qui vont être discutés sans doute dans des présentations qui vont suivre. Première idée, en dehors de ce que je vous ai présenté, quand j'ai parlé de liposomes, de certaines particules, en réalité, ce sont des sacs. Donc, vous ne pouvez pas imaginer, a priori, qu'on puisse les diriger comme ceci vers une cible. Donc, la première idée qui vient, c'est pour faire mieux, eh bien, il faut arriver à fonctionnaliser la surface pour permettre de guider ces objets vers une cible donnée, et toujours en gardant en tête une des applications majeures en thérapie anticancéreuse. Deuxième point important, n'oubliez pas, quand vous introduisez un produit étranger dans le corps, la réaction du corps, c'est d'aller le dégrader. Donc, il y a une notion qui est dite de furtivité pour essayer d'éviter la dégradation, l'interaction notamment avec des molécules dans le sang comme la séromalbumine. Et j'aime bien cette représentation qui est anglo-saxonne, qui signifie qu'en réalité, pour arriver à un objectif dans ce domaine-là, on a une série de haies à passer, dont certaines très hautes. Alors j'imagine que la très haute, par exemple, c'est de passer certaines membranes. Par exemple, les cancérologues rêveraient de pouvoir traiter un certain nombre de cancers du cerveau, du glioblastome, etc. Et un des problèmes majeurs, c'est de passer ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Et donc, on peut dire que ça, c'est un des objectifs. Mais on viendra aussi, je crois, dans des présentations futures, tout à l'heure, sur les notions de barrière. J'en dis pas plus. Et derrière donc, cette idée de vectoriser, de diriger les médicaments, arrive cette notion qui me paraît essentielle, qui est l'idée d'avoir une médecine personnalisée. Et ça met en jeu des concepts fondamentaux que j'explique ici de façon simplifiée. Donc les spécialistes, ne me bondissez pas dessus si vous trouvez que c'est trop simplifié, mais je pensais qu'il fallait le faire comme cela. À gauche, ici, vous avez la représentation d'une membrane qui sépare donc l'intérieur d'une cellule de l'extérieur d'une cellule. Et vous voyez qu'une membrane, ce n'est pas simplement quelque chose d'inerte, c'est quelque chose de dynamique. Il y a des molécules qui traversent, qui servent à faire passer des éléments de l'extérieur à l'intérieur. Vous avez des éléments qui pointent à l'extérieur. Ici, ce sont des sucres, par exemple, à l'extérieur. Et vous avez notamment, et si on passe sur la droite ici, vous avez un schéma d'une cellule avec l'intérieur. Et vous avez des éléments dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure, qui sont des récepteurs. Donc ces récepteurs, ça sert, si vous imaginez que vous avez la circulation sanguine à l'extérieur, eh bien, à être reconnus. Ils sont reconnus par des molécules qui sont dans le sang. Ça peut être des hormones, des facteurs de croissance, etc. Et donc, ces récepteurs vont servir à l'interaction avec des éléments qui sont à l'extérieur de la cellule. Ce que vous devez garder en tête, c'est que dans un certain nombre de pathologies, donc de dérèglements cellulaires, des récepteurs particuliers vont venir être présent à la surface d'une cellule en quantité beaucoup plus importante que dans une cellule, on va dire, normale, non malade. Et on va essayer de jouer en permanence sur ces propriétés-là. Donc l'histoire des récepteurs peut se décliner de la manière suivante. Dans le sang, il y a des molécules qu'on appelle des ligands, terme de chimiste au départ. Ces ligands donc, vont reconnaître, les ligands ça vient de se lier, hein, ils vont reconnaître les récepteurs, ils vont se lier aux récepteurs, et du fait de la liaison à ces récepteurs, ça va déclencher des cascades réactionnelles que j'ai très simplifiées ici, parce qu'il y en a des dizaines, et puis c'est très compliqué, mais on va dire qu'il y a une cascade réactionnelle qui contribue normalement au fonctionnement de la cellule. Avec un ligand artificiel, c'est-à-dire modifié, mais qui reconnaîtrait toujours le récepteur, vous pouvez arriver à la notion suivante, très simple, c'est que le fait d'introduire un ligand artificiel, ça va bloquer cette cascade réactionnelle, et en conséquence, ça va conduire à la mort de la cellule qui va littéralement se suicider. Alors ça, c'est un des mécanismes, sachant qu'il peut y en avoir des plus compliqués qu'on va revoir plus tard, de type cheval de Troie, c'est-à-dire qu'on peut faire rentrer le ligand artificiel dans la cellule et, ceci va amener à la destruction de la cellule. Donc je reviens à l'exemple que j'ai cité au début, qui est celui de l'arceptine, qui est un anticorps dirigé contre un récepteur qui s'appelle R2. Et ce récepteur R2 est très présent dans certains cas de cancer du sein chez la femme. Donc, dans la réalité aujourd'hui, on peut utiliser ce composé, l'herceptine, pour traiter environ 25% des femmes dont la caractéristique de la tumeur est de surexprimer, c'est le terme que l'on emploie, ce récepteur. Donc on n'est pas encore dans la médecine personnalisée, mais on est dans une médecine de groupe. Autrement dit, on va utiliser cette thérapie qui vient en complément, d'ailleurs aujourd'hui, de thérapie classique, que dans le cas où on a repéré la surexpression du récepteur. Donc ça évite d'utiliser de façon complètement anarchique un composé qui vaut très cher. Peut-être, Alain, tu connais peut-être le prix de la thérapie. Moi, j'avais retenu de 5 à 8 000 euros par mois, non ? C'est ça ? Donc vous voyez qu'on est là sur des thérapies très chères, mais qui sont efficaces. Alors je continue mon histoire pour arriver à une autre idée qui est qu'il faut passer du diagnostic rapide à la thérapie ciblée si je reprends l'idée que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'on va déterminer s'il y a des récepteurs surexprimés pour pouvoir appliquer une thérapie particulière. Donc on va rechercher dans un premier temps des biomarqueurs. On va les chercher quand c'est facile dans le sang et l'urine parce qu'on va pouvoir les retrouver facilement. Sinon on va faire des biopsies et voir par des techniques dites de biologie moléculaire, quels sont, par exemple, les récepteurs surexprimés. Et on va essayer à l'avenir d'adapter les thérapies au type de tumeur et même, quand on sera dans des étapes encore plus sophistiquées, au grade de la tumeur, à l'évolution de la maladie, etc. Donc on en vient au concept qu'il faut développer finalement des outils qui servent à la fois au diagnostic et au ciblage, si possible, le ciblage étant toujours la vectorisation, mais la vectorisation sert aussi à réaliser le diagnostic. Et j'aime bien ce schéma, ce dessin, qui est très sympathique. En rouge, vous avez ici la représentation d'une membrane et puis des récepteurs qui sont à l'extérieur. Et vous voyez que vous avez ici une molécule avec la lampe, c'est un composé fluorescent qui va servir au diagnostic, par exemple. Et donc, s'il y a une reconnaissance, alors évidemment, tout ceci est très symbolisé. S'il y a une reconnaissance, cette molécule fluorescente va se fixer au niveau des récepteurs. Et dans la réalité, ça se passe comme ça. Si vous avez un amas cellulaire, une biopsie par exemple, eh bien, vous allez pouvoir identifier par cette couleur qui est la couleur verte, eh bien, c'est la fluorescence due au composé qui a reconnu des récepteurs. Donc vous pouvez dire que dans ce cas-là, eh bien, ces récepteurs sont surexprimés, sont présents à la surface de la cellule. Et le même outil, enfin la même molécule, eh bien, vous remplacez l'élément fluorescent par un composé qui va détruire éventuellement la cellule cible, eh bien vous pouvez vous en servir, vous pouvez imaginer vous en servir pour venir tuer cette cellule malade. Donc vous voyez qu'on est là, en train de développer, et ça marche à tour de bras dans les boîtes de biotechnologie, des outils qui servent aux deux. Alors j'en viens, on va dire, un peu à la fin de cette histoire, pour dire que en littérature, les nanotechnologies commencent à faire leur chemin aussi, dans l'art aussi. Et donc, l'an dernier, sont sorties des histoires autour d'un monde qui s'appelle Nanoria. Et vous voyez qu'il y a un schéma qui est très, très sympathique. Moi, il me plaît bien, qui serait la nanoparticule idéale, qui aurait un certain nombre de propriétés. Vous voyez, il y a des outils, etc. Donc, vous avez au centre la nanoparticule. Et donc, vous vous dites, eh bien, on est dans l'imaginaire le plus complet. Eh bien, moi, je vais vous montrer qu'on commence à approcher de la réalité, puisque ça aussi, c'est une publication dont je vous demande de noter encore le nom du premier auteur, qui s'appelle Lee. J'ai repris ici le schéma qui est dans la publication. Je vous le commente rapidement. En vert, vous avez une cellule qui est présentée en coupe. Et vous avez la particule, la nanoparticule, qui a été conçue par ces chercheurs. Donc c'est une nanoparticule complexe qui a la propriété qui est un oxyde de fer, donc sensible au magnétisme, qui a une autre propriété, c'est qu'on a pu lui greffer dessus une partie qui sert au ciblage de récepteurs. Ces récepteurs sont marqués en rouge, ici, à la surface de la cellule. Vous avez une autre partie qui s'appelle un SIRNA, que je ne vais pas trop commenter, mais qui sert à aller taper sur des cibles à l'intérieur de la cellule et à empêcher le fonctionnement cellulaire. Et puis, vous avez en plus un autre élément qui est fluorescent. Donc, vous voyez, vous avez une combinaison, et ça ressemble un peu à ça, hein. Vous avez une combinaison d'éléments portés par le même ensemble, par la même nanoparticule, donc qui va se fixer à la surface par un mécanisme dit d'endocytose ou d'internalisation. Dans ce cas-là, c'est le principe du cheval de Troie. On fait rentrer la nanoparticule à l'intérieur. Elle va agir, mais non seulement elle va agir, on va pouvoir la repérer par des techniques de type IRM. On va pouvoir suivre éventuellement l'évolution de la tumeur si ça fonctionne, puisqu'il y a de la fluorescence, donc la fluorescence va avoir tendance à diminuer en fonction du traitement. Donc on peut dire que de façon tout à fait idéaliste, on pourrait avoir dans pas longtemps ce type de nanoparticules utilisables dans l'industrie pharmaceutique. N'oubliez pas quand même qu'entre ce stade-là et puis le développement d'un médicament, il va se passer entre 10 et 15 ans, hein, au minimum. Mais en tout cas, on est sur le chemin. Alors on peut dire que sur cette nanoparticule-là, il lui manque quand même quelque chose, c'est un moteur moléculaire. Donc je boucle ma boucle par rapport au départ. Et ce moteur moléculaire, peut-être qu'on saura un jour l'utiliser, l'adapter pour ce type de développement. Alors je vais faire juste une digression rapide et j'arrive à la fin. Cette digression m'amène à vous dire qu'en dehors du champ de la santé que j'ai abondamment développé, il y a quasiment à notre insu l'utilisation de nanoparticules dans un certain nombre de produits qui servent à l'alimentation. Alors, je vous ai listé ici leur utilisation, aromatisation, modification d'absorption, etc. Je ne vais pas les commenter en particulier, mais pour vous dire que j'ai extrait ceci d'une présentation de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui date de 2008, donc c'est récent. Et que nous dit cette présentation? Eh bien, un, il y a sûrement une problématique environnementale. Deux, et ça c'est très surprenant, nous ne savons pas rechercher, identifier ces nanoparticules dans l'environnement, l'eau et les aliments. Donc ça ne va pas vous rassurer, je suis désolé. Mais trois, une quantification d'exposition par voie orale n'est pas réalisable. Et enfin, la toxicité des nanoparticules par voie orale est très peu documentée. Donc je ne peux pas vous dire mieux, ça n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est une présentation tout à fait officielle qui a été faite l'an dernier. Donc là, il y a sûrement un souci, il y a objet de débat, et il faut être clair. Le deuxième champ que j'aborde à peine, puisqu'il sera évoqué un peu plus tard, ce sont les nanotechnologies et la cosmétique. Deux technologies majeures, je les ai évoquées, donc je ne vais pas les commenter. Surtout, il faut noter qu'il y a un intérêt industriel très fort, de l'ordre de 16% d'augmentation de part de marché par an. Donc c'est vraiment très intéressant pour les industriels qui sont dans ce secteur-là. Et là, vous en avez utilisé déjà, parce que si vous avez des écrans solaires, des pommades avec des écrans solaires renforcés, il y a des nanoparticules. Alors on va vous expliquer si c'est risqué, pas risqué, etc. Quelles sont les évaluations potentielles que l'on peut faire aujourd'hui. Les maquillages, les dentifrices, etc. J'en passe, parce qu'on reviendra sur ce sujet un peu plus tard. Et donc je finis sur une première idée qui est, je mets ça dans le débat futur de toutes nos journées autour des nanotechnologies. Il y a un premier souci éventuel dans le secteur de la production avec l'accumulation sur les sites de production. Je vous cite ici le cas de la société Arkema qui va produire 400 tonnes par an. Ça vous paraît beaucoup, mais non, ça c'est un pilote industriel. Après on va passer à des milliers de tonnes. Et vu la taille des objets produits, des nanotubes de carbone, ça en fait pas mal. Deuxièmement, il y a des soucis éventuels, des risques éventuels au niveau de l'utilisation. Donc biodégradabilité, quelquefois, n'est pas connue. Il peut y avoir accumulation de matériaux dans l'organisme humain. Et ça, c'est vrai aussi pour le domaine de la santé que j'évoquais tout à l'heure. Et comme ce n'est pas la première fois que je fais cette présentation, je fais toujours un jeu de mots de mauvais goût, c'est-à-dire on peut mourir guéri éventuellement. Mais bon, alors ça aussi, je mets ça dans le débat. Il peut y avoir des effets secondaires qui sont dus aux nanoparticules elles-mêmes, et on commence à en connaître, etc. Et il y a aussi des interactions potentielles avec d'autres molécules. Donc si vous voulez, dans tout ce que je vous ai raconté, ça vous paraissait un monde rose vers lequel on avançait, mais attention, attention, il y a des problèmes potentiels dans l'application et surtout dans la dissémination. Et je finis sur mon image artistique. Donc ça vient de Science in Your Eyes. Vous avez ici des liposomes de différentes compositions. repérer par microscopie de champs de force atomique et de fluorescence. Et je trouve que ces objets sont magnifiques. Vous avez ici quelque chose qui ressemble à la Terre. Hein, on pourrait vous faire croire que c'est la Terre, non ? Et donc, pour moi, ça rejoint l'idée aussi qu'il ne faut jamais oublier qu'on développe dans la maison que les sciences et les arts sont toujours très proches. Et on essaie d'ailleurs, en général, de développer le sens artistique à partir de la science. Et on évoquera ça sûrement dans une de nos prochaines journées. Je vous remercie de votre attention.
Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser sur cette présentation ? Alors, je vous rappelle que on souhaite une bonne interactivité. Une question peut-être. Est-ce que les nanomatériaux ont des propriétés différentes des macromatériaux pour le même matériau ?
Ça commence mal, je n'ai pas de réponse. Non, je n'ai pas de réponse. Peut-être que les autres intervenants en ont. Hein.
Il marche. Là.
Bonjour. Les nanomatériaux...
Un peu plus fort, s'il vous plaît. Si. Ah bon, ben...
Il ne marche pas plus que ça. C'est pas grave. Les nanomatériaux ont les mêmes propriétés que les macromatériaux, mais en plus fort. On peut estimer qu'il y a un facteur 100 entre les propriétés entre macro et nano. Et ils développent aussi d'autres propriétés qu'on n'arrive pas encore totalement à discerner.
Compléter la réponse, je ne sais pas si on m'entend.
Mais si, ça va.
Ça va ? On peut compléter la réponse en disant qu'une des caractéristiques essentielles, c'est que comme on a diminué la taille, on accroît la surface de contact. Et c'est, je pense, en cela, et notamment on amplifie un certain nombre de résultats. Alors, si vous n'avez pas de questions, ça n'est pas grave, parce que vous pourrez en poser tout au long de la journée, mais essayez de réagir. Hein.
Merci. On reviendra sur la problématique cancer, je pense, dans la journée, qui est extrêmement complexe. Ce que nous a présenté Yves est super intéressant, exaltant pour l'avenir, mais je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire et énormément d'obstacles, en particulier de cette grande haie à sauter ou à contourner. Bien, maintenant, je voudrais introduire la présentation suivante. Justement, je pense qu'on va parler de ça, vers la conception de nouveaux médicaments par Madame Christine Vautier, qui est directrice de recherche au CNRS, Université Paris Sud, à Châtenay-Malabry, grande spécialiste de ce problème.
Je pensais que la discussion serait plus longue et du coup je l'ai pas. Non,
ça vous sert à passer,
de l'une à l'autre.
Vous n'avez pas de nomination
spéciale. Et puis sur le toucher chat, maintenant, il faut qu'il y ait un taillage.
Le micro, c'est lequel, le bon?
Les deux marches. J'attends que... Non, ça marche, c'est qu'il y a un petit réglage à faire et ce n'est pas là. En principe, ça fonctionne. Donc, ils sont allumés, ils fonctionnent.
Bon, ben, bonjour à tout le monde. Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir demandé... J'espère que l'ordinateur ne va pas faire de farce. Donc merci aux organisateurs de m'avoir invité à vous parler justement des stratégies qui sont actuellement en cours pour développer des nouveaux médicaments. Donc l'intervenant précédent m'a déjà largement ouvert la voie. Donc je vais vous expliquer un peu quels sont les problèmes, un peu plus dans le détail, quelles sont les problématiques qui sont abordés pour les médicaments d'une manière générale, ce qu'on a comme problème actuellement et pourquoi finalement on se dirige vers les nanotechnologies. Donc je vous expliquer plutôt cette démarche comme ça. Alors je ne sais pas pourquoi. Ce ne serait pas lancé. Alors le challenge en fait auquel on est confronté, c'est d'arriver à optimiser l'action des médicaments. Donc on a des médicaments effectivement, mais pour la plupart, on veut essayer quand même qu'ils soient plus efficaces. Alors un médicament, tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Un médicament, c'est un principe actif, c'est la molécule en fait qui va être à l'origine des effets biologiques, donc qui va traiter, qui va donner le traitement. Et cette molécule active, elle est formulée, donc on lui ajoute des substances pour en faire la forme d'administration. En fait, c'est ce que vous connaissez, c'est la gélule, le comprimé que vous avalez, ou c'est la seringue qui va vous administrer une solution, ou maintenant, depuis récemment, dans certains cas, des suspensions. Donc le médicament, c'est tout cet ensemble, c'est le principe actif plus les substances qu'on met autour pour en faire la forme d'administration. Alors comme il vous a été expliqué tout à l'heure, lorsque l'on prend un traitement, le principe actif qui est enfermé dans sa forme d'administration, il va devoir sauter beaucoup de barrières pour arriver à sa cible thérapeutique. Et beaucoup de cibles thérapeutiques sont situées à l'intérieur des cellules. Donc il faut aller jusqu'à l'intérieur des cellules et pas n'importe quelle cellule, la cellule malade. Donc vous voyez par exemple lorsque vous prenez un comprimé ou une gélule, déjà dans le tractus intestinal vous avez des problèmes de dégradation et des problèmes d'absorption. Il faut passer l'intestin pour arriver dans la circulation sanguine. Donc seulement une fraction en général de la quantité de principe actif qui est administrée arrive à joindre la circulation sanguine. Donc on a des pertes à ce niveau-là. Ensuite, dans le sang, on peut avoir des dégradations. On a les systèmes de défense de l'organisme qui vont parfois être activés. Et surtout, on a une très grande dilution et le sang va vous permettre de distribuer le principe actif dans l'ensemble de l'organisme. Cette distribution, elle va se faire vers les tissus, les organes qui ont besoin d'être traités, mais elle va aussi se faire de la même façon vers des tissus sains. Et donc, on a le problème des effets secondaires dont vous entendez de temps en temps parler à la radio ou à la télévision. Donc, c'est tous les effets toxiques liés au principe actif qui rentrent dans des cellules qui n'ont pas besoin d'être traitées. Donc là, on a donc un grand effet de dilution, un effet de dégradation, donc des pertes forcément qui sont parfois très importantes. Ensuite, il faut que le principe actif sorte de la circulation sanguine et rentre dans le bon tissu. Donc on a encore des pertes à ce niveau-là. Dans le tissu, il peut être dégradé et il doit encore passer une barrière pour rentrer dans la cellule pour enfin atteindre la cible. Parfois, même dans la cellule, il doit aller dans certains petits compartiments de la cellule. Donc il y a encore une barrière à l'intérieur de la cellule. On va rester, disons, au niveau où on veut déjà arriver sur la cellule. Donc vous voyez, plein de barrières. Donc par rapport à ce qui est administré au départ, à la fin, il ne reste pas grand-chose qui vraiment tape sur la bonne cible. Alors comment améliorer les choses? Il y a différentes stratégies qui peuvent être abordées. Tout d'abord, on peut se dire, bon, le principe actif, il est peut-être beaucoup perdu dans le tractus gastro-intestinal, on va directement le mettre dans la circulation sanguine. Donc là, effectivement, on va gagner cette étape, hein, et on va avoir effectivement peut-être un peu plus de principe actif qui reste dans la cible, qui va aller vers la cible, mais on perd quand même, on garde ces effets de dilution, de mauvaise distribution vers les cellules cibles, donc on a toujours cette distribution inspécifique. Et au niveau des tissus, on en perd encore et on a toujours ces barrières à franchir. Donc on en perd. On en perd et, bon, d'une manière générale aussi, une piqûre est toujours moins bien acceptée qu'un principe actif, un médicament qu'on peut donner par la bouche. Et pour développer des produits administrables par injection, il faut que l'industrie pharmaceutique développe des technologies basées sur des préparations stériles. Donc c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus exigeant. Une autre stratégie, c'est de modifier chimiquement la molécule. Donc là, on va directement agir au niveau chimique de la molécule. Les problèmes qu'on peut rencontrer, c'est parfois une perte d'activité. Et d'autre part, l'industrie pharmaceutique actuellement va un petit peu à reculons dans cette voie-là parce que ça demande des procédures d'enregistrement très longues. Donc c'est reparti pour 20 ans avant de pouvoir ressortir un nouveau médicament. Alors, une autre solution, c'est justement de se repencher sur la formulation. Je vous ai dit, un médicament, c'est un principe actif plus une formulation, donc une mise en forme. Et là, l'idée, c'est de modifier complètement la stratégie de formulation pour arriver finalement avec une molécule de départ qui va être identique à la précédente, mais arriver à optimiser ses performances. Et c'est là qu'intervient en fait la notion de nanotechnologie. Donc l'idée, c'est maintenant de mettre la molécule active dans un système issu des nanotechnologies, donc de l'enfermer dans une nanotechnologie, et ensuite de l'administrer. Donc ça peut être administré soit sous la forme d'un comprimé, la forme d'une gélule, ou la forme d'une piqûre. Donc l'idée aussi, c'est, bon, monsieur, l'intervenant précédent avait des beaucoup plus belles images que moi, mais l'idée c'est aussi que sur la nanotechnologie, on va pouvoir coller une adresse, et donc cette adresse va permettre de diriger le principe actif de façon beaucoup plus spécifique vers la cible, éventuellement en l'aidant à passer les barrières. Donc c'est ensuite, éventuellement, si on arrive à mettre des moteurs moléculaires. Donc là, on va pouvoir être beaucoup plus efficace à diriger notre principe actif enfermé dans la nanotechnologie vers la cible, en évitant la distribution vers des sites toxiques et en augmentant la quantité de principe actif qui va arriver à la cible. Alors cette idée, en fait, elle a germé il y a à peu près une centaine d'années. C'est Paul Ehrlich, un immunologiste qui a reçu le prix Nobel de médecine il y a une centaine d'années, qui développait en fait des principes actifs anti-infectieux et qui s'était rendu compte qu'en fait beaucoup de molécules pouvaient être effectivement très efficaces, mais elles avaient aussi tendance à être très toxiques et à tuer les patients. Et donc il avait consacré une partie de ses recherches à se dire, il faut que je trouve des solutions pour obtenir des médicaments qui tuent la cause et qui ne tuent plus mes patients. Alors, quel genre d'objet peut-on utiliser? Vous voyez, j'ai repris une échelle de taille, donc qui va du nanomètre au centimètre. Et vous voyez en fait apparaître sur cette échelle un certain nombre d'objets qui vous est familier, les cellules sanguines, les bactéries, on en a vu tout à l'heure, un virus, effectivement, j'ai repris également le virus. Dans notre circulation sanguine, nous avons de façon naturelle également des lipoprotéines de haute densité ou de basse densité, et l'albumine qui est donc une protéine, la protéine majoritaire qu'on trouve dans le sang. Ce que l'on peut dire, c'est qu'en fait, parmi tous ces objets naturels, j'ai entouré les virus et les lipoprotéines pour deux raisons. Ce sont des objets qui servent à transporter des matériaux dans la circulation sanguine. Les lipoprotéines servent à transporter le cholestérol aux cellules pour les nourrir de cholestérol. Un virus, bon, c'est sûr, c'est un agent pathogène. Mais un virus, c'est également une entité pathogène qui est capable de transporter du matériel génétique jusqu'à une cellule cible. On peut le voir comme ça. Hein ? Donc, en fait, au niveau des nanotechnologies, si on veut développer des systèmes qui nous permettent de transporter des principes actifs vers une cellule cible, on peut considérer qu'il faut se situer sur des systèmes particuliers. Donc, je vais surtout me consacrer sur des systèmes particuliers qui sont dans le domaine des tailles des virus ou des lipoprotéines. Donc, ça veut dire à peu près dans ce domaine, donc quelques dizaines de nanomètres jusque vers aux alentours de 500 nanomètres en général. Donc, on a entendu parler des liposomes. Donc, voici un peu l'histoire de leur découverte. Ehrlich, ça date d'il y a 100 ans. Le problème d'Ehrlich, c'est qu'il y a 100 ans, on n'avait pas de microscope électronique, on n'avait pas d'outils pour essayer de visualiser ces tout petits objets. Et ce n'est que dans les années 60, donc il y a une quarantaine d'années, que Bangham, c'est le scientifique qui a travaillé sur les liposomes, a découvert et a réussi à produire ces premières petites vésicules de phospholipides. Alors, ses travaux n'étaient pas du tout dans le domaine de la vectorisation. Lui s'intéressait à développer un outil de recherche fondamentale utile pour la biologie, de façon à cette époque-là, à étudier les passages des molécules à travers les membranes des cellules. Et donc, il avait réussi, à partir d'extraits cellulaires, à isoler des bicouches de phospholipides que vous retrouvez dans les membranes des cellules pour réaliser ces travaux d'études fondamentales. Alors, ces objets ont intéressé très rapidement d'autres personnes, dont Gregoriadis en 72. Vous voyez, il y a très peu de temps qui s'est écoulé dans cette période-là. Et Gregoriadis a pensé que ces liposomes pouvaient être utiles justement pour réaliser le rêve de Ehrlich, qui était de développer un transporteur de principes actifs. Et là, on était dans le domaine de taille qu'on pouvait atteindre pour développer ces objets. Donc, Gregoriadis a été le premier à proposer de charger les liposomes en principes actifs pour en faire des transporteurs in vivo. À peu près dans la même période de temps, d'autres chercheurs se sont penchés sur l'utilisation des polymères. Alors, dans le domaine de la chimie des polymères, on commençait à savoir faire des petites particules de polymères de la taille qui pouvait être compatible avec une utilisation comme vecteur de principes actifs, donc comme transporteur de principes actifs in vivo. Le problème qu'il y avait, c'est que ces particules étaient constituées de polymères non biodégradables, non biocompatibles, et donc on ne pouvait pas envisager directement de les utiliser pour en développer de nouveaux médicaments. Et donc c'est à la fin des années 70 que Patrick Couvreur, à l'époque il travaillait encore en Belgique avant de rejoindre le groupe à Châtenay-Malabry, a développé les premières nanoparticules biodégradables qui ont donc pu être utilisées pour développer des nouveaux médicaments transporteurs, donc en utilisant ces particules comme transporteurs de principes actifs. Donc Patrick Couvreur actuellement est le directeur de notre laboratoire à Châtenay-Malabry. Alors bon, il s'est quand même écoulé maintenant une trentaine d'années depuis ses premiers travaux, soit sur les liposomes en tant que transporteur de principes actifs, soit sur les nanoparticules à base de polymères en tant que transporteur de principes actifs. Et l'on a maintenant à notre disposition tout un panel d'objets que l'on peut utiliser comme système pour les charger en principes actifs et vectoriser des principes actifs au sein de l'organisme. Alors vous voyez, ces objets sont quand même encore relativement simples par rapport à ceux décorés que nous a présentés, qui nous ont été présentés dans l'intervention précédente. Bon, on a des systèmes à base de polymères qui peuvent être soit pleins, les nanosphères, soit creux, ce qu'on appelle des nanocapsules. On a des systèmes basés sur l'auto-assemblage de polymères, où on a également des systèmes basés sur une seule macromolécule de polymère qui est basée sur une synthèse en étoile. Donc c'est une chimie de synthèse particulière qui fait croître un polymère dans les trois dimensions de l'espace. Donc ça, c'est pour les objets de polymère. Et on a toute une gamme également d'objets à base de lipides. Donc là, j'ai oublié de dire, ce sont toujours des polymères biodégradables et biocompatibles que l'on utilise dans notre cas. On a également des systèmes donc, à base de lipides, donc les liposomes, il y a toujours beaucoup de travaux dessus. Il y a récemment des objets constitués de principes actifs squalénino-isolés. Donc ce sont des molécules qui s'auto-assemblent pour former des nanoparticules lipidiques, et également d'autres systèmes lipidiques, soit sous forme de nanosphères, soit sous forme de nanocapsules, donc encore une fois, des systèmes creux ou des systèmes creux ici ou pleins. Et assez récemment, puisque là ça correspond également à une chronologie dans la découverte et dans la description de ces objets, Des chercheurs s'intéressent à l'application des fullerènes et des nanotubes de carbone. Alors les fullerènes sont les plus petits, ils sont plutôt dans ce domaine-là. Les nanotubes de carbone, en fait, ils sont petits dans leur section, mais ils peuvent être très longs dans leur longueur. C'est pour ça que je les ai mis comme ça. Mais ce sont des objets qui intéressent les chercheurs également comme système de vectorisation de principes actifs. Alors, où en est-on actuellement dans les développements ? Est-on encore dans le domaine de la fiction ou y a-t-il déjà des choses qui sont utilisées en clinique ? Alors, je vous rappelle que l'objectif, c'est d'arriver à optimiser l'action des principes actifs. Alors, on a effectivement, vous voyez, depuis une quinzaine d'années, des liposomes qui sont utilisés en clinique pour le traitement de certains cancers. Un des liposomes qui contiennent de la doxorubicine, c'est un anticancéreux qui est très utilisé. Et on a également d'autres types de liposomes qui contiennent de l'amphotéricine B, c'est un principe actif qui est très utilisé pour des traitements d'infections sévères, notamment des infections à la Leishmania. Donc ce sont des infections de pronostic très sévère. Et on a depuis moins longtemps des nanoparticules qui contiennent également un anticancéreux, le paclitaxel, et qui sont utilisés depuis 2 ans aux États-Unis. Donc voilà ce que l'on a au niveau pour les médicaments. Ce sont des médicaments encore relativement simples. Ils permettent de diminuer considérablement les effets secondaires, donc d'aller mieux vers les tumeurs. La plupart du temps, au niveau des anticancéreux, c'est quand même des médicaments qui vont aller vers les tumeurs solides. Et pour l'anti-infectieux, celui-là, il va aller plutôt vers le foie. Alors, on a d'autres voies d'application des nanotechnologies en médecine, notamment dans le cadre de la prévention. Alors, en prévention, on peut les utiliser pour formuler des vaccins. Alors, on a actuellement des vaccins contre la grippe ou contre l'hépatite qui sont formulés sur ce modèle-là. Ce sont des genres de liposomes dans lesquels sont insérés les antigènes. Et les antigènes, notamment pour le vaccin de la grippe, sont définis par l'OMS tous les ans. Donc il existe des vaccins utilisés en vaccination humaine sur ce modèle-là. Il y a d'autres, donc ça ressemble beaucoup au virus de la grippe. Il est entièrement reconstitué à partir de protéines produites par biotechnologie et par des techniques de recombinaison de systèmes phospholipidiques. On a également d'autres types de particules qui ressemblent beaucoup aussi à d'autres types de virus, où là, l'élément de base, en fait, c'est une protéine de capside virale qui est produite par biotechnologie et qui est auto-assemblée en incorporant des antigènes de la même façon. Et au niveau de la vaccination animale, on a d'autres types de systèmes de présentation d'antigènes qui s'auto-assemblent également en insérant les antigènes qui sont à base de saponines et de lipides. Donc l'objectif là, c'est d'avoir un système qui présente correctement l'antigène, un peu à la manière du virus, et qui va également le protéger contre la dégradation in vivo. Enfin, dernier champ d'application intéressant, les nanotechnologies en médecine, où on a des choses. Le diagnostic in vitro, donc là je vais rester au niveau de l'application de nanoparticules dans des tests d'agglutination qui sont utilisés depuis de très nombreuses années dans les laboratoires, puisque là on n'avait pas besoin de nanoparticules biodégradables et de faire tout un tas de tests pour vérifier que le système sera efficace au niveau thérapeutique. On reste dans un tube à essai ou sur une lame comme ici. Donc, ce sont des choses qui sont utilisées dans les laboratoires de diagnostic, notamment pour des tests immunologiques depuis très longtemps. Et plus récemment, par contre, on a des produits qui sont utilisés comme agents de contraste pour l'imagerie en résonance magnétique nucléaire. Ce sont des systèmes à base de nanoparticules d'oxyde de fer, dont on a un petit peu entendu parler précédemment. Donc on a un laboratoire en France qui est bien placé au niveau du développement et de l'utilisation de ces produits de contraste. Donc vous avez ici ressorti d'un article des images d'IRM d'un foie, d'un patient, avec ce genre de produit de contraste. Donc vous avez ici l'image qui est utilisé pour le diagnostic sans le produit de contraste. Et vous avez ici une cinétique. Après l'administration du produit de contraste, vous voyez que quelques minutes après l'administration du produit de contraste avec ce genre de nanoparticules, on voit très clairement apparaître des zones beaucoup plus contrastées, ce qui permet de faciliter les lectures des images obtenues dans ce genre de diagnostic. Alors, quels sont maintenant, je vous ai montré qu'on peut, on a différentes voies d'application au niveau thérapeutique, au niveau de la prévention et au niveau du diagnostic à la fois in vitro et in vivo. Vers quoi se dirige-t-on ? Ben, on se dirige justement maintenant sur des systèmes qui vont mieux cibler, sur lesquels on va vraiment poser les outils pour faire du ciblage avec une reconnaissance des cellules. Pour l'instant, la reconnaissance, elle se fait de façon plus ou moins passive. Donc là, c'est vraiment ciblage. Et alors, ce qu'on essaye également de faire, vous avez vu ces particules magnétiques qui donnent le contraste ici, elles se concentrent dans un tissu tumoral, par exemple. Et donc l'idée, c'est d'associer à ces nanoparticules ici un principe actif, un anticancéreux par exemple, et en même temps qu'on a l'image ici, l'imagerie sous IRM, pouvoir éventuellement stimuler la libération du principe actif si on voit qu'on a un tissu cancéreux. Donc stimuler de façon focalisée et locale la libération du principe actif en même temps finalement qu'on a fait le diagnostic, donc avec le même outil. Alors juste ce diagramme qui retrace un petit peu l'ensemble des maladies sur lesquelles il y a des recherches actuellement pour appliquer ces nanotechnologies. Le cancer constitue un très très grand pôle. On a les imageries, le diagnostic des cancers, bien sûr. Et vous voyez qu'on a des applications dans les infections sévères. Dans les maladies métaboliques, ce qu'on essaye de faire, c'est les traitements par voie orale, notamment l'administration orale de l'insuline pour le diabète. On a également tout ce qui traite les maladies effectivement cérébrales, puisqu'on a le problème du passage de la barrière hémato-encéphalique. Il y a des études sur le traitement de la douleur, sur les histoires de management du système immunitaire, donc soit arriver à contrôler des maladies auto-immunes, soit à contrôler les phénomènes de rejet de greffe pour des personnes qui ont subi des greffes. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Allô ? Est-ce que vous avez, pardon, est-ce que vous avez des questions à poser à la suite de cette très intéressante communication ? Il y a sûrement des tas de questions qui vous viennent à l'esprit, là. Oui, bah. Je passe le micro, je vais avoir... Vous y allez ? Il marche le micro ?
Oui, t'inquiète. Il y a ouvert.
Bravo, je vous félicite, c'était passionnant. Une courte question concernant
Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît.
Ah, excusez-moi, je suis Thierry Ferreira, je suis enseignant-chercheur à l'université en biologie et secrétaire de l'école de l'ADN. Donc je voulais vous demander si les matériaux que vous utilisez, qui sont biodégradables, sont également biosourcés. Est-ce qu'ils ont une origine naturelle ou est-ce que ce sont des polymères d'origine... enfin des hydrocarbures qui ont des propriétés de biodégradabilité.
Alors, dans certains types de nanoparticules qui sont utilisées, effectivement, on utilise des matériaux que vous avez appelés biosourcés, c'est-à-dire qui sont issus de matériaux naturels. On a des sources de polymères de type polysaccharides, donc que l'on prend directement dans la nature. Mais on a également pas mal de polymères qui sont issus de la synthèse chimique. Bon, personnellement, moi, je travaille beaucoup sur les polycyanoacrylates d'alkyl. On a également beaucoup de développement sur des polymères de type polyester, donc les acides polylactiques, polyglycoliques. Les polyepsilon-caprolactones sont également beaucoup utilisés. On met beaucoup de polyéthylène glycol en surface des particules pour justement les aspects de furtivité qui ont été évoqués tout à l'heure. Et puis, on a également des développements et des polyanhydrides. Alors, les polyanhydrides, ce sont parfois des polymères qu'on essaye d'obtenir à partir d'acides aminés que l'on condense en fait entre eux.
Bonjour, je suis Valérie Sabatier de Grenoble École de Management. Je voudrais, comprenant que votre laboratoire est à la pointe là, pour ce qui est des nanobiotechnologies et de la médecine là, aujourd'hui, j'aimerais savoir quelles sont vos relations avec l'industrie. Est-ce que vous avez des contrats, par exemple, qui permettent d'aller dans les développements précliniques et cliniques ? Est-ce qu'il y a des projets de ce type ? Et où est-ce que vous en êtes en termes d'interaction avec l'industrie ?
Alors, interaction avec l'industrie, effectivement, on a beaucoup de contrats avec l'industrie depuis très longtemps. Bon, on a eu un très, très gros programme BioAvenir avec Ron Poulin-Crorer à l'époque du programme sur les biotechnologies au début des années 90. Ensuite, on a eu des relations très étroites avec la société BioAlliance Pharma, qui a engagé une phase 2-3, en phase clinique, 2-3, sur des nanoparticules de polycyanoacrylate d'alkyl, justement, issus du laboratoire et des travaux de Patrick Couvreur. Actuellement, la phase 3 est en arrêt, donc je n'ai pas parlé je ne sais pas si elle va pouvoir être continuée ou pas, donc je n'ai pas parlé de ce projet. Il y a eu une phase clinique menée en France sur des nanoparticules dans le domaine de la cancérologie. Ensuite, il faut que les fonds viennent pour pouvoir continuer. C'est toujours le problème. Et actuellement, je sais que Patrick Couvreur développe des choses sur les squalènes, donc sur les nanoparticules à base de squalène, dans le cadre d'une start-up qui s'appelle MedSqual. Donc on a des activités effectivement en très étroite collaboration avec un certain nombre de sociétés qui cherchent à développer. Alors beaucoup de choses sont en études précliniques, hein, donc bien en amont de la clinique, entre le moment où on sort de quelque chose du laboratoire et le moment où on arrive à la clinique, il s'écoule déjà pas mal d'années. Et il faut déjà beaucoup de capitaux. Donc c'est un frein au développement de ce genre de technologie, particulièrement en Europe.
D'accord. D'autres questions ?
Fabrice Pirot, Université de Lyon. Juste un commentaire. Une des difficultés aussi qui réside dans le développement de ces produits, c'est d'obtenir des matières premières qui soient de qualité pharmaceutique. Mmh. Et c'est un gros challenge. Il faut savoir que les fournisseurs de produits, de matières premières de qualité pharmaceutique, qui sont agréés par l'APSAPS, eh bien, on les compte sur les doigts d'une main et encore amputés de quelques doigts. Hein.
Oui, alors et puis avez... en plus, on a tout le développement effectivement des polymères qu'on utilise. Tu as tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord. Il y a tout le problème du développement des produits qu'on rajoute pour faire les nanoparticules, finalement.
Absolument.
Qui viennent en parallèle du développement du médicament lui-même. Donc ça, c'est effectivement des freins.
Il faut savoir que depuis l'année dernière, il existe un décret qui nous limite, limite par exemple dans mon exercice professionnel, donc un décret qui vous interdit d'utiliser des produits issus de grands laboratoires, de grands fournisseurs, comme par exemple Sigma-Aldrich. Hein, on achète tous les jours des produits de chez Sigma-Aldrich et on nous interdit d'utiliser ces produits qui sont d'excellente facture pour une utilisation chez le patient. Donc de sorte qu'on est obligé de rappeler l'AFSAPS en leur demandant, ben voilà, moi je suis bloqué, je ne peux plus faire de théophylline injectable, mettons sous forme nanoparticulaire, parce que ça présente un intérêt, parce que j'utilise un anisate, qui est un conservateur, mais qui est commercialisé chez Merck, vous m'interdisez, comment je fais ? Pourquoi on interdit ? Eh bien, parce que ces laboratoires ne sont pas agréés en tant que qualité pharmaceutique, même si leur pureté est tout à fait acceptable, même parfois supérieure à des produits qui sont dits de qualité pharmaceutique. Par exemple, moi, j'ai vu un essai sur des cyclodextrines qui sont de qualité pharmaceutique. Je ne me souviens plus la société. Quand j'avais fait des essais avec des cyclodextrines de chez Sigma, bon, là où il y a un tamisage moléculaire extrêmement fort, des produits d'une très grande pureté, j'envoie la lettre au chirurgien en disant « Oh, c'est tout bon, vous allez pouvoir le faire. » Et puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas de qualité pharmaceutique. Je m'adresse au laboratoire qui fait les mêmes cyclodextrines dites de qualité pharmaceutique. J'obtiens une flocculation terrible. J'ai dû aller m'excuser auprès du chirurgien en disant « Bah non, je ne peux pas vous la donner, ce n'est pas le même résultat. » Donc, toutes ces contingences altèrent beaucoup notre fonctionnement.
Je peux juste faire un commentaire. C'est que c'est un commentaire sur l'intervention. C'est quelquefois, quand les cyclodextrines sont trop pures, elles flocculent.
Mais c'était l'inverse.
Ah. Non, mais on ne va pas faire un débat sur les cyclodextrines. C'était une plaisanterie. Ouais.
Sur d'autres questions ? Oui.
Savoir qu'il n'y a pas que des biologistes dans la salle. Donc,
oui, pas de problème.
Bien que vous Bonjour, Laetitia Rouleau, je travaille au CHU de Poitiers dans la recherche clinique. Et je voulais savoir si vous travaillez aussi sur la disponibilité du médicament dans le temps, à travers les nanoparticules.
Forcément, on a des...
C'est-à-dire, par exemple, au lieu d'avoir, de prendre le traitement une fois par jour, le prendre une fois par semaine, voire même une fois tous les 15 jours.
Alors, nanoparticules, actuellement, je pense une fois tous les 15 jours, ça paraît pas tout à fait au poids. Mais de toute façon, oui, ça fait partie de l'ensemble des objectifs aussi, contrôle de la libération, obtenir des systèmes à libération contrôlée. Ça fait partie de tout cet ensemble. Et même de pouvoir contrôler à demande, de pouvoir faire des pulses. Donc ça peut aller à la sophistication des objets qu'on essaye de concevoir, hein, peut être excessivement complexe, avec multifonction. Voilà.
Okay, d'accord, d'autres questions? Oui. Madame Bonnefoy.
Oui.
Au fond.
J'y vais.
Votre monsieur. Secrétaire.
Excusez-moi, j'y reviens. Quand on parle, donc, je suis bloqué un peu sur ces matériaux biodégradables. Parce que je me dis, bon, s'ils sont donc d'origine naturelle, ils sont peut-être mieux tolérés. Donc bon, on a peut-être déjà un avantage par rapport à ça. Et on disait qu'en fait, que lorsque, finalement, lorsque vous parlez de ces polymères, j'ai l'impression que ce sont les mêmes qui sont utilisés dans les matériaux actuellement biodégradables, que ce soit dans les sacs... dans les sacs plastiques, quand vous parliez du PLA, par exemple, des choses comme ça.
Le PLA, en fait, les produits de dégradation, c'est de l'acide lactique qui est directement pris en charge par je m'excuse pour les personnes qui ne connaissent pas, mais le métabolisme dans le cycle de Krebs.
D'accord. Donc ce que je veux dire, est-ce que...
Vous partez directement sur le métabolisme des cellules.
Donc ce sont des matériaux qui, finalement, ont une potentialité de prise en charge par les micro-organismes de l'environnement lorsqu'ils sont rejetés, c'est ça, globalement?
Alors, il y a deux choses, il y a deux types de produits biodégradables. Vous avez les produits biodégradables qui vont vous permettre de faire des sacs en plastique. Je suis d'accord avec vous. Donc il y a des tas de recherches qui se font sur cet aspect-là. Et quand vous allez in vivo chez l'homme, ce sont des produits biodégradables par votre organisme. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes. Et ça ne va pas être forcément les mêmes contraintes non plus aussi au niveau de l'acceptabilité, de la toxicité, parce qu'il va falloir que ce soit ensuite pris en charge par vos mécanismes biochimiques à l'intérieur de vos cellules et pouvoir être éliminé par vos propres mécanismes d'élimination, qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui sont mis en œuvre dans la nature et qui impliquent la plupart du temps des micro-organismes que l'on trouve dans la nature, qui peuvent être des bactéries, avec des équipements enzymatiques qui sont complètement différents des nôtres.
Donc je suis d'accord, je n'avais pas compris. Donc quand vous dites biodégradable, c'est vraiment par le patient,
oui,
et pas une fois qu'il y a eu un rejet, je dirais, par les urines dans l'environnement, par exemple.
Non. D'accord. C'est vraiment biodégradable au sein de l'organisme. Et il faut voir que les produits de biodégradation au sein de l'organisme ne doivent pas eux-mêmes induire une toxicité. Donc on a d'énormes contraintes au niveau de la conception de ce genre de polymère.
J'aurais voulu faire deux remarques. En tant que cancérologue, on est très intéressé par ces nanoparticules à plein de niveaux. On reparlera, je pense, du diagnostic après la communication suivante. Mais en particulier, en ce qui concerne l'imagerie, et moi, en tant que radiothérapeute, c'est un enjeu extrêmement important, la précision de l'imagerie, l'évolution vers l'imagerie fonctionnelle, c'est-à-dire... au sein d'une même tumeur, essayer de définir des zones d'anoxie, par exemple, que l'on sait radiorésistantes, et au niveau desquelles on pourrait donner une dose plus importante. Et actuellement, avec les moyens de la radiothérapie moderne, on peut le faire. Donc ça, cette imagerie, pour mieux cibler par nos techniques la tumeur, ou certaines parties de la tumeur, ça fait partie des évolutions importantes à venir. De même que faire interagir... une nanoparticule dans une cellule avec des éléments physiques que l'on peut envoyer. Et en ce qui concerne la vectorisation de médicaments, moi je suis toujours embêté en cancérologie par un obstacle majeur et qu'on n'arrive pas encore à contourner, qui est la bioaccessibilité aux cellules. On sait très bien que dans nos tumeurs qui sont même à partir d'une petite taille de quelques millimètres, il y a déjà des zones qui sont nécrotiques, donc avasculaires, et au niveau desquels le médicament n'arrivera peut-être pas, même s'il est bien vectorisé, à atteindre la cible. Comment est-ce qu'on peut envisager de contourner ce problème? C'est compliqué.
Oui, c'est un problème compliqué. Bon, on peut envisager déjà de le contourner par le fait que si on amène déjà, par le biais des vecteurs, on va pouvoir amener des concentrations plus importantes de principes actifs au niveau du tissu tumoral, beaucoup plus importante qu'avec le principe actif soluble dans une solution qui actuellement est injectée. Donc par ce biais-là, on arrive déjà à avoir des concentrations plus importantes. Maintenant,
je pense que c'est important. C'est une bonne. Puis on peut commencer aussi à détruire efficacement la partie périphérique de la tumeur qui est bien vascularisée. Puis petit à petit, on va gagner le centre. Et puis surtout, il faut s'aider aussi. C'est une approche polythérapeutique, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Non. Donc on peut contourner cette difficile bioaccessibilité.
Dans la mesure où on envisage d'avoir des plus fortes concentrations au niveau tumoral.
Merci Madame Vautier. Donc maintenant, je vais donner la parole au docteur Eberle, qui est médecin biologiste et qui est responsable médical de la division business et développement de Roche Diagnostic à Grenoble. Et le sujet de sa communication, c'est les biopuces, de la recherche aux applications cliniques de routine. Vous avez une demi-heure, quoi. On a pris un peu de retard, mais c'est bien, je crois qu'il faut discuter. C'est ça qui est le plus important. On a un peu de temps.
Donc bonjour, merci à Anne surtout pour m'avoir invité. Juste avant de commencer, je voudrais rebondir sur la présentation du professeur Cénaud Quimpo pour dire que donc, je suis de la société Roche. L'herceptine, c'est le médicament effectivement de Roche, donc je me permets de le dire. C'est le premier traitement ciblé qui a révolutionné le pronostic du cancer du sein, je ne vais pas refaire tout l'historique. Donc pour dire également que Roche est au-delà de l'herceptine, depuis il y a une dizaine de médicaments qui ont été développés par Roche, qui sont des thérapies ciblées, il y en a une trentaine aujourd'hui en développement, etc. Également pour dire que Roche donc, a une double division, une division pharmaceutique et une division diagnostique. Au diagnostic, on fait des automates de biochimie, et le CHU de Poitiers a une chaîne qui doit faire 15 mètres de long, où toutes les analyses de biochimie et d'immunologie sont faites avec Roche. Et juste pour conclure, vous avez dit une chose très très importante, qu'il n'y a pas de thérapie ciblée sans de ciblage thérapeutique sans diagnostic. Et concernant le diagnostic médical est fondamental. Il y a des réglementations, je vais y revenir un peu. Et donc effectivement, avant de donner l'herceptine, qui n'est efficace que dans 25%, il est fondamental de rechercher la présence de récepteurs. Et la présence de récepteurs, notamment c'est la société Ventana qui a mis au point des tests pour trouver le récepteur. Et Roche donc, a racheté Ventana pour montrer, justement, donner une vision globale de Roche, très investie en cancérologie. Voilà, j'arrête ma pub et je passe au sujet suivant. Donc, on va partir. Donc, je vais parler. Alors, je vais vraiment restreindre l'utilisation des puces ADN dans quelque chose qui est presque marginal. Mais donc, je vais aller dans le détail, mais sur une application, encore une fois, marginale. Mais ça permet d'aller au fond des choses. Donc, je vais partir évidemment de cas cliniques, codéine, cancer du sein. Je vous parlerai de la puce, pourquoi la puce est arrivée, et on verra si notre réactif est utilisé ou pas. Donc, le premier cas, c'est une observation rapportée dans le Lancet il y a 3 ans. C'est un nouveau-né qui naît par les voies naturelles. Les 5 premiers jours se passent très bien. Au septième jour, l'enfant est somnolent, constipé. Au onzième jour, le pédiatre revient, mais bon, ne remarque rien d'anormal. Au douzième jour, l'enfant a un teint gris, il ne s'alimente plus, et malheureusement, il décède au treizième jour. Donc des analyses, évidemment, autopsies sont faites, etc. Et il y a des gens qui, justement, des chercheurs, qui veulent aller plus loin pour comprendre pourquoi cet enfant est décédé d'une façon, a priori, on ne comprend pas pourquoi. Alors, c'est un cas aux États-Unis, ça ne se serait certainement pas passé en France. Premièrement, la mère qui a accouché a eu une épisiotomie. Et pour les douleurs, pour contrecarrer les couleurs, un médecin a prescrit du paracétamol et de la codéine. Entre nous soignés, la codéine, normalement, est évidemment interdite lorsque la femme allait. Donc, la mère allaitait son enfant. Alors bon, on ne va pas jouer au jeu des questions-réponses, on va directement au fait. c'est que la codéine, qui est quand même très présent dans beaucoup de médicaments, non seulement les antitussifs, mais également, donc en complément du paracétamol, parce que la codéine se transforme en morphine, grâce à une enzyme qui s'appelle le cytochrome P450-2D6. Alors, dans la suite de la présentation, je résumerai en 2D6, donc c'est une enzyme qui convertit la codéine en morphine. Et si vous avez moins mal quand vous prenez de la codéine, c'est moins à cause de la codéine qu'à cause de la morphine. Donc c'est vrai qu'on dit que le foie dégrade les médicaments, mais en l'espèce, la codéine est une prodrogue, et donc le foie, non pas biodégrade, mais on va dire, la biodégradation intervient après. Évidemment, le but, c'est que la molécule devienne hydrosoluble, mais avant cela, donc il y a par le rajout d'une déméthylation, la morphine, donc, et évidemment, le médicament vraiment antalgique. Donc la mère, maintenant vous avez compris, la mère allaitait son enfant, ce qui fait que la codéine était transformée en morphine. Alors, j'introduis le fait suivant, c'est que on est à peu près 50 dans cette salle, donc vraisemblablement 47, 48 d'entre nous qui prenons de la codéine allons transformer progressivement dans le temps la codéine en morphine. Mais il y a peut-être une ou deux personnes parmi nous, remarquez, c'est beaucoup plus rare, une personne au mieux, au pire une personne parmi nous. Donc il y a certaines personnes qui métabolisent extrêmement rapidement parce que l'enzyme est extrêmement active, on verra pourquoi, la codéine en morphine. Et donc la mère transformant le peu de codéine qu'elle prenait en morphine, intégralement et rapidement, la codéine, la morphine donc, est passée dans le sang maternel, dans le lait maternel, et l'enfant est décédé d'une overdose de morphine. Alors il y avait quelques petits signes cliniques, la mère était constipée, l'enfant somnolait, donc ce qui sont des complications de la morphine. Enfin, je n'ai jamais pris de morphine, mais je crois savoir que... Enfin, en cancérologie, la morphine est très utilisée, et c'est vrai que en cancérologie, pour lutter dans les douleurs dans les douleurs, on peut se permettre d'augmenter évidemment les doses de morphine pour contrecarrer la douleur. Je prends un autre exemple qui est... Donc ce qu'il faut retenir du premier cas, c'est transformation de la codéine en morphine par une enzyme particulière sur laquelle on va revenir ensuite. Deuxième cas clinique que je veux aborder, c'est le traitement hormonal du cancer du sein. Il s'avère qu'un certain nombre de cancers du sein donc présentent ce qu'on appelle des récepteurs tumoraux, aux œstrogènes et aux progestatifs. Et dans certains cas, on prescrit du tamoxifène. Le tamoxifène se lie en lieu et place des œstrogènes. Et donc là où normalement, évidemment, avant la ménopause, les œstrogènes contribuent à la croissance cellulaire mammaire normale, le tamoxifène, en se liant sur le récepteur, quand le récepteur est présent, donc encore une fois, il faut rechercher les récepteurs avant de donner le tamoxifène, mais quand on a du tamoxifène, donc on inhibe la croissance tumorale. Alors, le tamoxifène, c'est un peu comme la codéine, le tamoxifène est une prodrogue. En tant que tel, il est très peu antitumoral, mais c'est lorsqu'il est, alors on ne va pas dire biodégradé, mais bioactivé par cette enzyme de D6, qu'il produit du tamoxifène, qui est le véritable composé chimique doué de l'activité antitumorale. Alors, je vais compliquer de plus en plus. Chez une personne, alors je vais être en même temps schématique, évidemment, donc pour ceux qui sont spécialistes en biologie moléculaire, je simplifie évidemment, mais grosso modo, le gène de D6, donc on a un gène. Le gène peut avoir des configurations différentes d'un individu à l'autre. Pour simplifier encore une fois, on a deux jeux de chromosomes, un hérité du père, un hérité de la mère. Ce qui fait que si une personne a un gène dans la configuration normale, qu'en biologie on dit sauvage, et que la personne est homozygote, wild type, ça veut dire qu'il a deux allèles, on va dire normaux, donc qui codent pour une enzyme qui va être fonctionnelle, le tamoxifène, un peu comme la codéine, le tamoxifène est produit en endoxifène, qui, encore une fois, est la molécule antitumorale active. En revanche, certaines personnes peuvent avoir l'allèle étoile 4, Donc c'est une certaine configuration d'allèle, on y reviendra. Cet allèle a un certain nombre de mutations, ce qui fait qu'un patient a un certain nombre de mutations, et l'allèle intrinsèquement conduit à une inactivité enzymatique. Ce qui veut dire qu'une personne qui sera homozygote avec un allèle non fonctionnel, évidemment, ne produira pas d'endoxyphène. Ce qui fait que le cancérologue qui prescrit le tamoxifène à des femmes étoiles qui sont incapables de métaboliser le tamoxifène ne produiront pas d'endoxyphène et donc auront un risque, enfin une survie moins importante ou un risque de progression du cancer plus importante. Pour aller plus vite, je n'ai pas indiqué mes références, etc., mais vous pouvez me faire confiance. Donc le tamoxifène n'est pas métabolisé, donc c'est un peu l'inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, on s'intéressait à la molécule active qui était la morphine. Ici, c'est la molécule active est encore une fois l'endoxyphène, mais dans ce cas-là, c'est l'inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait une personne, une mère qui avait un métabolisme hyperactif. Ici, on s'intéresse plutôt aux personnes qui n'ont pas de métabolisme de la prodrogue. Donc, la prodrogue reste à l'état prodrogue. Bon. Alors, déjà, vous avez donc une raison génétique quasiment de résistance à l'activité du tamoxifène. Qui plus est, donc je reviens sur le fait que le tamoxifène est entre autres donc métabolisé par l'enzyme de D6 en endoxyphène. Seulement, quand vous donnez du tamoxifène, rappelez-vous, vous bloquez les récepteurs des œstrogènes. En d'autres termes, vous faites quasiment une castration chimique de la femme. Vous la mettez en préménopause, si vous voulez. Et donc, la femme va présenter des bouffées de chaleur. Et ce qui se passe, c'est que pour contrecarrer les bouffées de chaleur, les cancérologues, alors il n'y a évidemment aucune attaque personnelle contre les cancérologues, bon, vous comprenez bien, mais les cancérologues croient bien faire, en prescrivant des médicaments comme la fluoxétine, la paroxétine, ou des antidépresseurs. Alors, ils prescrivent des antidépresseurs éventuellement parce que la mère qui a cancer du sein est dépressive, mais surtout pour contrecarrer les bouffées de chaleur. Pour quelle raison ? Parce que ces médicaments-là sont également métabolisés par l'enzyme de D6, mais ils sont plus affines pour cette enzyme-là que ne l'est le tamoxifène. Donc l'enzyme est... Donc ces médicaments-là agissent comme inhibiteurs de l'enzyme de D6. L'enzyme a donc deux substrats, mais pour une question d'affinité, eh bien l'enzyme, ces médicaments-là vont agir pour inhiber donc l'activité enzymatique. Ce faisant, même la femme qui aurait des allèles normaux de D6 pour métaboliser le tamoxifène, en prescrivant du Prozac, eh bien vous inhibez cette voie-là. Certes, la femme ne présente plus de bouffées de chaleur, mais surtout, vous inhibez sa capacité antitumorale. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas prescrire chez les femmes qui prennent du tamoxifène ce type de médicament. Alors, évidemment, il y a des publications, mais encore une fois, je passe pour des raisons de rapidité. Donc, ça, c'était le contexte clinique de la pharmacogénétique, c'est-à-dire de l'influence des gènes sur le métabolisme des médicaments. Alors, en même temps, on m'a demandé de venir pour les puces. Alors, je suis venu non pas avec des puces, mais avec une puce seulement, qui est celle-ci. Et donc, cette puce a la particularité d'explorer le métabolisme de deux enzymes. Une enzyme qui s'appelle 2C19, dont on n'a pas parlé, mais peu importe, qui métabolise essentiellement des antiépileptiques, des antidépresseurs, des antiulcéreux, le Plavix en prévention secondaire dans les infarctus, en prévention secondaire des complications thromboembolisantes. Deuxièmement, cette puce-là explore le métabolisme de l'enzyme 2D6, qui métabolise, comme on vient de le voir, la codéine, le tamoxifène, et également les antidépresseurs et les neuroleptiques. Alors, on va compliquer un peu. On a bien... Alors, je part du cytochrome 2C19, qui est le cas le plus simple. Si vous avez un allèle dit normal, donc là, avec une séquence classique normale, on va dire, pour être simple, gène normal, activité enzymatique normale. En revanche, les personnes qui, dans cette salle, ont un étoile 2, et on est à peu près 20% dans ce cas-là, nous avons dans ce cas-là une mutation qui conduit à une inactivité de l'enzyme. Idem pour l'étoile 3. Donc, ensuite, les spécialistes, donc les pharmacogénéticiens, ont établi des lois fondées sur des lois empiriques fondées sur ce qui se passe réellement. Compte tenu du fait qu'on a notre patrimoine génétique donc est hérité de nos parents, une personne qui aurait, si jamais vous avez au moins un allèle normal, quel que soit l'allèle associé, vous serez considéré comme métaboliseur rapide, normal. En revanche, si vous avez si vous êtes homozygote, étoile 2, étoile 3, étoile 2, ou si vous avez deux allèles, 1, ou si vous êtes hétérozygote, étoile 2, étoile 3, gène inactif, enzyme inactive. Donc, la puce vous permet de dire, alors je reviendrai sur le fonctionnement de la puce, mais vous permet de dire quels sont les allèles dont vous avez hérité, et donc à partir du génotype, de votre conformation d'ADN, on va en déduire la façon dont vous allez métaboliser les médicaments, encore une fois, de C19, c'est les antiépileptiques, le Plavix, les antidépresseurs. Alors vous me direz, les biologistes moléculaires nous diront, franchement, pour aller rechercher deux mutations, on ne va pas investir 500 euros dans une puce pour aller chercher deux mutations. Tout biologiste moléculaire digne de ce nom, c'est évidemment rechercher deux mutations par une simple PCR ou une simple hybridation. On n'a pas besoin d'une puce. Donc la puce pour le C19 ne sert à rien. Alors, maintenant, on va compliquer. Nous allons passer du gène 2C19 au gène 2D6. Donc, je ne reviens pas sur ce qu'on a déjà dit. Le gène 2D6, même principe. Vous avez certains allèles qui vous prédisent que l'enzyme va être normale. Vous avez des allèles inactifs qui vous prédisent que l'enzyme sera inactive. Et vous avez parfois des duplications d'allèles normales. Ça veut dire que cet allèle-là est dupliqué 2, 3, 4, 10 fois sur le chromosome. Presque un peu comme pour le HR2, quand il est amplifié, c'est parce qu'il est en fait, y a de nombreuses copies dans le gène. Et donc, si vous avez un allèle qui présente 10 gènes de D6, évidemment, l'activité enzymatique sera augmentée. Donc, j'ai simplifié volontairement. Donc, même topo que tout à l'heure. Là, on parlait d'un allèle. Nous avons évidemment deux allèles. Les lois peuvent être un peu différentes d'un cytochrome à l'autre. Les pharmacogénéticiens ont dit, quand on a au moins un allèle normal, quel que soit l'allèle associé, vous aurez une activité enzymatique normale. Comme le 2C19, si vous avez deux allèles inactifs, eh bien, vous n'aurez pas voilà. Et si vous avez un allèle avec un gène dupliqué plus un autre allèle normal, vous serez métabolisme rapide. Alors, ce qui vous manque, c'est de savoir que le gène 2D6 parmi nous peut être extrêmement variable. Autant le 2C19, vous aviez un gène normal, la population se divisait entre allèle normal et deux mutations possibles pour les allèles 2 et 3. Cette fois-ci, dans la population mondiale, vous avez une centaine d'allèles possibles et on a su caractériser, en fonction du type de mutation, si l'allèle n'est associé à aucune activité enzymatique ou si, au contraire, l'allèle produit une activité normale. Donc, vous avez énormément de mutations possibles, donc bien caractérisées, et c'est là qu'intervient l'intérêt de la puce. C'est que la puce, comme toute puce de carte bleue, vous permet, en tant qu'outil diagnostique, de rechercher l'ensemble de ces mutations-là et de vous dire, finalement, quel est votre profil génétique. Et compte tenu des lois qu'on a données tout à l'heure, quand on gère les deux allèles paternels et maternels, eh bien, un simple logiciel va vous dire, je reprends mon étoile 4 tout à l'heure pour les femmes qui prenaient du tamoxifène et qui étaient homozygotes, si vous avez, alors je reviens juste en arrière, vous êtes étoile 4, vous avez toutes ces mutations-là, la puce va rechercher celle qui est en gras, donc encore une fois l'étoile 4, hein, rappelez-vous pour le tamoxifène, c'était pas l'activité enzymatique. Si vous avez hérité du père d'un étoile 4 et de la mère d'un étoile 4, évidemment, 0 plus 0 égale 0. Donc, j'en viens à la procédure technique. Une simple prise de sang. Il faut évidemment le consentement éclairé. Il y a des lois, etc., de bioéthique. On extrait les ADN. On amplifie les gènes. On va introduire le produit d'amplification dans la chambre par une petite piqûre sur le... On introduit le produit d'ADN dans la chambre. Et c'est pour ça qu'on appelle nanobiotechnologie. Je suis ravi d'apprendre que vous ne l'avez pas défini parce que je ne sais pas non plus le définir. Mais bon, la puce est là. On la scanne. Et je présente la puce. Donc elle est installée à l'hôpital Pompidou. Vous avez le système de lavage. Vous savez qu'en biologie moléculaire, quand on hybride, il faut ensuite enlever ce qui ne s'est pas correctement hybridé, etc. La puce qu'on scanne. C'est un produit qui répond à des normes. Et le produit est marqué CE-IVD et est approuvé par la FDA pour une utilisation clinique de routine. Donc effectivement, entre la recherche, et vous avez présenté beaucoup de présentations possibles et potentielles en recherche, mais dès lors qu'on passe chez le patient, les réactifs doivent être enregistrés réglementairement auprès des autorités de tutelle. Voilà. Donc j'en termine pour dire qu'on a la puce à rechercher l'ensemble des mutations et ce qui va in fine chez le pharmacogénéticien et le clinicien. Pour cette personne-là, vous voyez que la puce donne allèle sauvage wild type partout, aucune mutation, aucune amplification, ce qui fait que la personne est dite 2D6 étoile 1, donc l'allèle le plus fréquent étoile 1 homozygote sauvage étoile 1 étoile 1, donc évidemment il est métaboliseur normal. Le but évidemment c'est que une fois qu'on a le rapport, on va aller dans une constellation de pharmacologie, on va avoir les médicaments qui sont substrats de 2D6, les médicaments inhibiteurs, inducteurs, et ça se termine par vous devez augmenter votre dose, diminuer votre dose de médicaments en fonction de votre profil enzymatique et en fonction que la drogue est une prodrogue convertie en drogue active ou au contraire pour les antidépresseurs, la drogue est donnée sous forme active et effectivement elle est dégradée par le foie. Donc je résume cette partie-là en disant vous avez fait un génotypage ADN et vous en prédisez la capacité enzymatique réelle de métaboliser les médicaments pour adapter la dose. Alors presque la conclusion, la discussion. Ces puces sont-elles utilisées en routine, en recherche et en routine? Alors, je reviens premièrement sur le premier cas qu'on a vu tout à l'heure avec cette mère qui avait allaité son enfant. La mère, effectivement, avait un génotype avec un allèle normal et un allèle qui était, deux doses de gènes. Donc, donc étoile 2 plus un gène amplifié, compte tenu de la loi qu'on a donnée tout à l'heure, elle était donc elle avait un métabolisme hyper rapide de la codéine en morphine. Le père était normal, l'enfant avait une activité enzymatique tout à fait normale, mais le problème c'est que la mère, donc encore une fois, c'est parce que la mère métabolisait très vite la codéine en morphine que l'enfant est décédé. Donc là, c'est un peu une utilisation exceptionnelle, et c'est là que je commence la discussion en disant que ce cas-là, ça reste des cas très exceptionnels. Donc j'ai dit chapeau quand même, d'ailleurs c'est publié dans le Lancet, pour que certains médecins se sont dit pourquoi l'enfant est-il décédé ? Et avant d'en arriver là, il fallait quand même sacrément cogiter. Enfin, je sais bien que pour expliquer la mère prenant de la codéine, c'était assez simple de voir une relation de cause à effet. Sur le tamoxifène, pour dire qu'en France, il y a une étude financée par l'INCa sur ce qu'on vient de dire. Donc, étude du polymorphisme de 2D6 sur la réponse au tamoxifène. Alors, ceci dit, c'est là que, pour dire, est-ce que les puces sont utilisées en routine ? Franchement, pas du tout. Le tamoxifène, c'est très important. Sans me substituer évidemment au cancérologue, le tamoxifène est très largement prescrit, mais c'est un médicament qui a plus de 30 ans, que tout le monde connaît très bien, dont on connaît l'efficacité qui est quand même relativement bonne. Et c'est vrai que même si on sait que, encore une fois, si on est même une femme qui serait à métabolisme génétiquement normal, mais qui prendrait des antidépresseurs, aurait une diminution de son activité enzymatique, ça reste, non pas théorique, mais ça reste tellement historique et le tamoxifène est tellement entré dans les mœurs que c'est vrai que c'est difficile en 2009, où il y a tellement de nouvelles molécules, dont l'herceptine et d'autres molécules, franchement, aller s'intéresser au tamoxifène en 2009, ça fait un peu has-been. Bon, ceci dit, c'est quand même la vraie vie. Alors, on a fait une autre étude chez les patients, donc avec un réseau très officiel français qui s'appelle le réseau pharmacogénétique des psychotropes. Je suis passé vite, mais 2C19 et 2D6 métabolisent presque tous les antidépresseurs et neuroleptiques. Les patients schizophrènes prennent des neuroleptiques, et donc on a donné des puces pour chez ces gens-là pour voir s'il y avait un lien entre schizophrénie, résistance au traitement, etc. On n'a pas trouvé l'intérêt des puces, je le dis franchement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant en pharmacogénétique, c'est ceux qui, parmi nous, métabolisons ultra rapidement les médicaments ou pas du tout. Et grosso modo, 99% des gens métabolisent plus ou moins bien les médicaments. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est les cas rarissimes, ou les cas rares, on va dire, de ceux qui vraiment sont soit hyperactifs, soit dénués d'activité enzymatique. Et dans la nature, c'est finalement assez rare, 5-6%. Ce qui veut dire que même encore qu'on ait étudié 200 patients schizophrènes, pour aller montrer l'intérêt, donc déjà chez 200 patients schizophrènes, au mieux, on en aura 10 qui seront un métabolisme nul, puisque les antidépresseurs neuroleptiques sont donc des drogues actives qui sont dégradées par le foie. Donc au mieux, dans les 200 patients étudiés, il y en a peut-être 10 relevant d'un point de vue biologique. Mais pour aller expliquer que c'est le métabolisme des médicaments qui empêche les patients schizophrènes de bien métaboliser leurs médicaments, et pour évaluer objectivement l'intérêt de l'outil biologique dans la réponse thérapeutique, surtout en psychiatrie, c'est pas simple. Donc, je résume. La pharmacogénétique, c'est incontestablement une discipline médicale importante, mais qui reste encore marginale. Alors, je dois dire en même temps que maintenant, quand on développe un médicament, il y a une obligation légale, et de toute façon, c'est l'intérêt des sociétés pharmaceutiques, très tôt, de savoir si le médicament qui est développé peut mal se comporter chez certaines personnes. Donc, dès le début du développement des médicaments, des études de pharmacogénétique sont faites. Il n'en empêche pas moins que pour l'irinotécan, pour un certain nombre de médicaments qui sont géniaux, au risque de tuer certaines personnes, quand on sait que c'est lié à la pharmacogénétique, on fait des tests pour l'irinotécan, pour un certain nombre de tests. L'herceptine, qui est un cas un peu différent, puisque là on est plutôt sur le versant efficacité, prédiction d'efficacité plutôt que prédiction d'effets secondaires. Mais donc la pharmacogénétique, c'est important. Mais 2D6 et 2C19, c'est moyennement intéressant. Je dis moyennement pour ne pas dire que notre puce ne sert à rien, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, le format biopuce, en revanche, donc là, je parle de la discipline médicale. Maintenant, l'outil en lui-même, ce n'est pas une critique de l'outil. Et, encore une fois, je me suis restreint à parler de cette puce-là, alors qu'on aurait pu parler des puces MammaPrint en cancérologie du sein, on aurait pu parler de l'utilisation de puces en cancérologie sur d'autres applications. Les puces, c'est génial pour explorer un polymorphisme, une diversité génétique. C'est génial, mais c'est vrai que cette puce-là en particulier, elle n'est pas très utile, encore une fois, non pas à cause de la technologie, mais à cause du contexte de 2D6 et 2C19. Donc la technique doit rester évidemment au service d'un besoin médical. Souvent, on met en avant l'un au détriment de l'autre. pour conclure, je n'ai pas évidemment modifié ma présentation, mais Roche est complètement dans la médecine personnalisée avec les biomarqueurs en cancérologie, et on y croit à fond. Cette puce-là, bon, qui est sortie il y a 5-6 ans, c'est une façon, quelque part, pour dire on y croit, on va là-dedans, on s'intéresse au format puce, et ça renforce la crédibilité des thérapies ciblées. Donc je reprends votre conclusion je m'approprie votre conclusion. Il n'y a pas de thérapie ciblée sans diagnostic répondant à des critères d'enregistrement CE, IVD et FDA. Les chercheurs n'ont pas le droit de... Enfin, ils sont évidemment fondamentaux, mais pour de la recherche à la clinique, il y a des barrières légales qui, évidemment, dont on ne peut pas s'affranchir. Voilà.
Merci. Très élégante présentation. Avez-vous des questions à poser ? Oui.
Bon, je m'appelle Jean-Claude Lemonnier, je suis Poitevin, je sors du secteur de l'assurance, je suis un heureux retraité, mais je voudrais vous raconter une petite histoire, l'histoire de ma tête. En 1978, alors que je descendais dans l'immeuble où j'habitais, j'ai ressenti comme une pointe d'aiguille dans mon cerveau. En remontant, j'ai vomi et j'ai dû m'aliter. J'ai appelé mon médecin généraliste. Et, pardon, celui-ci s'est montré très inquiet, sans savoir ce que ça pouvait être. Il pensait à une tumeur du cerveau. À Limoges, où j'habitais à ce moment-là, il n'existait pas de scanner. Je suis donc passé devant un scintillographe ou un scintilloscope, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un grand appareil qui fait près de 2 mètres de diamètre. Avant, on avait introduit dans mon sang un produit pour que le sang brille. Et c'est cet appareil qui a permis de détecter dans mon cerveau une zone sombre. Et à partir de là, on a pensé à une tumeur. Je suis entré à l'hôpital en 79, et c'est à l'hôpital que là, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un angiome. Il y a donc eu un problème de diagnostic au départ. On m'a ouvert la tête. Et sur le front, on a réduit cet angiome en me posant, d'après ce qu'on m'a expliqué, des clips. C'est-à-dire qu'on a obstrué les vaisseaux qui avaient éclaté dans mon cerveau. J'ai demandé aussitôt si ces clips étaient en métal ou en plastique. On m'a répondu que c'était en métal, ce qui m'a un petit peu inquiété parce que le métal rouille. Et oui. Et en même temps, on m'a expliqué que dans la mesure où mon cerveau avait été mis à l'air, je devenais automatiquement épileptique. Je suis épileptique. Une quinzaine d'années se sont passées et une nuit, j'ai été réveillé par de très violentes douleurs dans les reins au niveau de la colonne vertébrale. C'était une douleur telle que ça me cassait en deux et on a appelé le médecin de nuit, qui a détecté, problème de diagnostic, un lumbago. Il a dit, vous avez un lumbago très fort, mais ça n'est qu'un lumbago. Le matin même, je suis parti dans la région de mon épouse, c'est-à-dire en Normandie, je partais de Poitiers, et j'ai eu des crises de lumbago, comme il m'avait dit, en voiture, en conduisant. Je ne sais pas si vous rendez compte du risque que je prenais. Arrivé dans la région de mon épouse, et j'ai eu encore des crises, nous avons encore appelé un médecin qui a confirmé le lumbago. Ça se passait donc en 1993, c'est-à-dire que 15 ans après, j'ai eu un problème. Diagnostic erroné, ça s'est calmé au niveau de mon dos, et 3 mois après, je me suis évanoui. J'étais à l'époque dans la maison de mes parents, nous avons fait appel au médecin de mes parents, et lui s'est montré beaucoup plus inquiet. Il a demandé mes antécédents, et aussitôt, il s'est dit, ça peut venir de là. Et effectivement, j'ai présenté, 15 ans après, un nouveau problème d'angiome qui a éclaté. J'ai été opéré et depuis, je ne me sens pas trop mal. Mais il ne reste pas moins que je ne sais pas ce qu'on m'a fait encore. Ça s'est passé là à Poitiers. Est-ce qu'on m'a mis des clips? Je ne sais pas. Est-ce que ça va revenir encore une fois? Je ne sais pas. Et je reste encore épileptique. Alors ma question est la suivante. Comment peut-on soigner l'épilepsie? Et est-ce que le problème d'angiographie que j'ai présenté peut se, non pas se renouveler, mais retripler dans le temps? Voilà mes deux questions. Je suis impatient et, pardon, ça se voit parfaitement sur mon crâne. C'était au niveau d'ici. Donc j'ai perdu une partie d'ossement ou d'os de mon crâne. Et ensuite, on voit très bien au-dessus, l'endroit où on a rabattu ma peau du crâne sur le devant de mes yeux et en arrière pour apparaître, voir apparaître le crâne. Et on m'a déposé donc un morceau de crâne sur une table pendant un certain temps.
On va essayer de répondre à votre question.
Je pense que beaucoup, comme moi, comprendront que c'est une question importante pour vous. Oui, voilà. Donc, je comprends le cas en tant que médecin. Maintenant, je suis un peu obligé de dire que votre description personnelle est un peu à la marge de la présentation. Et donc, je peux difficilement porter un jugement ou donner un... Vous avez été suivi par des équipes, j'imagine, de spécialistes. Moi, je ne suis pas aujourd'hui ici pour répondre à une question personnelle. Ce que je peux dire, bon, le seul lien que j'ai avec la présentation, c'est que les antiépileptiques sont métabolisés par 2C19. Ce que je peux dire, je réponds à côté, évidemment, et volontairement à côté, c'est que, par exemple, le clopidogrel, donc le Plavix, qui est utilisé largement chez beaucoup de personnes, eh bien, quand on prend du clopidogrel et quand on prend des médicaments qui sont aussi métabolisés par 2C19, il peut aussi y avoir des interactions conduisant à une inefficacité du clopidogrel. Et pour rebondir sur l'actualité, la FDA, il y a 3 jours, a rappelé que pour des questions de pharmacogénétique, le clopidogrel devait être associé. Il y avait des interactions pharmacogénétiques avec le clopidogrel. Alors, je ne sais plus s'il y avait des antiépileptiques, mais vous avez vu que les antiépileptiques sont aussi métabolisés par 2C19. Mais sur votre question, que je comprends médicalement, mais elle est en dehors du champ de cette intervention.
On peut dire que le résultat est bon.
Si. Oui. Non, en fait, ce n'est pas une question, c'est tout simplement pour répondre à M. Jean-Léopold Siwenana. Je suis médecin vasculaire installé en privé en Charente. Sur le plan diagnostic des angiomes, depuis 20 ans, on a fait énormément de progrès. Il y a l'angioscan et d'autre part, 90% d'angiomes sont de découvertes fortuites. Donc, non pas pour dire que vous avez eu de la chance qu'une clinique se déclare pour qu'on puisse la traiter. Concernant le traitement des angiomes, la grande avancée sont aujourd'hui des embolisations que l'on peut faire par voie artérielle. Donc, on n'ouvre plus le cerveau dans certains cas, on n'opère plus le foie, on embolise de l'extérieur. Quant au problème de l'épilepsie, je ne suis vraiment pas neurologue pour vous dire ce qu'on peut vraiment prévoir par rapport à cela, mais c'est vrai que sur le plan pharmaceutique, il existe aujourd'hui, si vous voulez, tout un arsenal thérapeutique qui permette bien de juguler les crises. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, pour ne pas vous laisser sur...
Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions Moi, j'aurais voulu peut-être poser une question. Vous avez juste évoqué le mammaprint. Moi, je trouve que les biopuces, une des grandes percées actuelles de ces biopuces, c'est le profil génique des tumeurs, et en particulier dans le cancer du sein. Il y a plusieurs techniques, mais actuellement, il y a une étude mondiale, c'est MindAct, avec le kit 70 gènes qui teste, qui est un élément pronostique du cancer du sein, qui est différent de ce qu'on utilise actuellement en matière de pronostic pour prescrire nos traitements adjuvants, chimiothérapie en particulier, ou hormonothérapie.
et que si le pronostic génique se confirme, ça évitera à peu près 30% de chimiothérapie en prenant des critères totalement différents. C'est-à-dire que les critères actuels sont anatomopathologiques, basés sur l'étude de la pièce opératoire, et tout le monde fait ça. Et si le pronostic génique se confirme, on laissera que d'en tomber. Le pronostic anapath, on passera au pronostic génique et ça sera beaucoup plus précis. Et il y aura moins de patientes qui seront soumises à la chimiothérapie. Ça, c'est très important, je crois. Le profil génique des tumeurs, comme pronostic de tumeur, également le profil prédictif des tumeurs. Ça, vous en avez parlé un peu. On sait que certaines. On peut prédire, on revient toujours, on peut en parler pour le cancer du sein. L'efficacité de certains médicaments de chimiothérapie au niveau de certaines tumeurs de chimiothérapie. Après, bien sûr, on est beaucoup plus précis quand il s'agit des nouvelles thérapeutiques ciblées. Et là, on sait que les thérapeutiques ciblées, du fait qu'elles sont ciblées, répondent ou sont efficaces à partir du moment où le mécanisme que l'on cible est hyperactivé ou hyperexprimé au niveau des cellules. Mais les biopuces permettent ce pronostic et cette prédictivité des tumeurs qui vont faire, à mon avis, partie demain de l'arsenal, de notre arsenal diagnostique et thérapeutique. D'autres questions ?
Peut-être rajouter juste oui, en 30 secondes. Alors, vous avez vraiment complètement raison. Les puces, c'est pour ça que, encore une fois, la pharmacogénétique, c'était une discipline médicale que je voulais aborder parce que les puces existent. Mais ce que je veux rajouter, c'est qu'effectivement, toutes les équipes de cancérologie sont maintenant obsédées par ce point. Une fois qu'on traite quelqu'un, y a-t-il des biomarqueurs et le profil génétique, les gènes qui sont allumés ou réprimés suite à un traitement, c'est vraiment ce qui est recherché en routine. Je pense évidemment aussi à l'Avastin, par exemple, qui est un anti-angiogénique. Il existe, tout le monde recherche des profils géniques. Et le format puce permet justement, parce qu'il est comme une puce de carte bleue, permet d'appréhender cette très grande diversité génétique. Par contre, ce que je veux juste rajouter, c'est qu'effectivement, tous les chercheurs, enfin, les cancérologues sont là-dessus, avec des moyens puces. Seulement, qu'on parle du mammaprint ou du test oncotype auquel vous faisiez allusion, encore une fois, quand on est dans du pronostic, vous voyez, avoir une puce pronostique, c'est le cancer, il est aussi soigné par une thérapeutique. Et le problème, c'est que si on veut l'utiliser en routine, encore une fois, pour des questions réglementaires, il faut que la puce réponde à des critères, un peu comme une AMM de médicaments. Et le souci, et c'est un peu là-dessus que je veux terminer, c'est que pour passer les barrières réglementaires, et c'est ce que vous disiez également, ça rajoute entre 1 et 10 ans. Et finalement, quand le produit arrive, vous voyez, quand cette puce-là arrive, elle est déjà dépassée parce qu'il y a des nouvelles puces, parce qu'il y a des nouveaux traitements, parce que le pronostic, on n'est pas dans l'histoire naturelle de la maladie. On est dans un cancer traité par quelque chose. Donc la puce, elle va dire, OK, avec cette chimiothérapie, les gènes ne sont pas bien, il y a des gènes allumés, des gènes réprimés, mais pour peu qu'on change de traitement, tout est à refaire. Donc, ma conclusion, c'est que le diagnostic a besoin d'AMM pour être utilisé à des fins de routine, et dès que l'outil est très vite dépassé, on fait une puce MammaPrint, elle n'est pas utilisée, parce qu'elle, j'ai presque envie de dire, elle est déjà has-been, et pourtant elle est marquée sur IVD comme celle-là.
Néanmoins, on va un petit peu vers le traitement à la carte, à puce.
On a 2 minutes, hein, cher ami.
Combien ?
Oui, parce qu'il sait que...
2 minutes.
Anne sait que je suis des fois long. Bonjour. En fait, j'ai 2 questions. La première, plus vers vous, monsieur. J'ai cru comprendre que le moyen que vous présentez permet de moduler l'utilisation d'un médicament par rapport au génotype du malade. Par rapport à une probabilité de cancer. Mais j'ai entendu dire, entre autres, grâce à Anne, qui invite pas mal de monde depuis pas mal d'années à Mendès France, que les cancers sont provoqués par une multitude de facteurs, mais que c'est plutôt une minorité de facteurs génétiques, 10-15% selon certains chercheurs. Donc, Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est déjà travaillé sur ces 10-15%? Voilà. Alors, ça, c'est la première question. La deuxième, elle est plus pour les deux dernières personnes qui sont intervenues, la directrice de recherche NRS et vous. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, et aussi grâce à ce que Anne favorise en rencontre, de constater qu'il y a beaucoup plus de moyens humains, financiers, technologiques mis dans la recherche sur des médicaments que la recherche sur les causes de cancer. Alors, bon. Et donc, j'aimerais savoir, mais ça, c'est une question beaucoup plus délicate, même si j'apprécie votre honnêteté par rapport aux puces recherchées par Roche, mais quelles sont pour vous les critiques ou les incidences désagréables qui peut y avoir pour les manipulateurs dans les labos, pour les malades et peut-être pour l'environnement? Mais ça, c'est une question plus large et je rêve un peu sur la réponse, sachant que vous êtes responsable business développement et que madame travaille avec de nombreux contrats d'entreprise. Alors, privée.
C'est pas deux questions, il y a au moins cinq questions en deux minutes. Alors,
il est comme ça.
Première réponse, le principe de la pharmacogénétique, donc c'est influence des gènes sur les médicaments. Le but serait de moduler le nombre de médicaments à prendre, suivant que vous avez un gène actif, inactif ou hyperactif, et en fonction que la drogue est une prodrogue ou un médicament actif. C'est le principe de la pharmacogénétique. Je suis d'accord avec vous, en pratique, il y a peu de cas où c'est vraiment utilisé en pratique de routine. Deuxièmement, les causes génétiques de cancer pour le cancer du sein, c'est BRCA1, BRCA2, qui concernent 5 à 10% des femmes. Donc, mais là, je ne veux pas me substituer au cancérologue, mais l'influence de la génétique dans le cancer du sein, c'est moins de 10% des cas. Et on a, alors nous, en tant que cross-diagnostic, ce serait une autre intervention, on a des séquenceurs, on a des instruments qui sont largement utilisés pour rechercher les mutations de BRCA1 et BRCA2 dans les cancers du sein. Mais c'est donc c'est effectivement important, mais c'est autre chose. Troisièmement, je retiens pour le manipulateur, vous savez, la puce, c'est pas différent de tous ceux qui font de la biologie moléculaire. C'est un outil. Bon, alors, déjà, vous avez vu qu'elle n'était pas utilisée, mais même encore qu'elle soit utilisée, c'est comme tous ceux qui font de la biologie moléculaire. Quand vous faites un Southern blot, un Northern blot, c'est depuis 30 ans, on fait de la biologie moléculaire. Il n'y a pas plus de les techniciens de laboratoire qui font des Southern blot. Alors, si, c'est quand on utilise la radioactivité, mais là, c'est un peu une question. Voilà. Alors, c'est au moins trois questions dans deux minutes. Je vous laisse les deux plus compliqués.
J'ai pas retenu les deux plus compliqués. C'est quoi les deux plus compliqués?
Par rapport à Roche, l'herceptine, c'est quand même 25%. Je reviens sur l'herceptine. HER2, il y a 10 ans, HER2 était un marqueur de mauvais pronostic. Toutes les femmes qui sont HER2 positives, si on ne leur donne pas le traitement, elles décèdent à 5 ans. Grâce à l'herceptine, au moins les femmes, 25% de ces femmes-là, à prédiction de chance de succès au traitement, on sauve peut-être 20% de ces femmes-là. C'est déjà une grande avancée. Et le traitement ne coûte plus 5 000 euros par mois, mais 24 000 euros par an.
Pour répondre à votre question, d'abord la partie génétique, c'est-à-dire héréditaire ou on hérite d'une prédisposition, on n'hérite pas d'un cancer, ça représente 5 à 10%, c'est vrai. Le reste, c'est le cancer est une maladie des gènes, des cellules somatiques. Et ces cellules-là, l'ADN de ces cellules subit tout un tas de mutations génétiques au cours de son évolution. Donc il y a des tas de mutations génétiques complexes qui rendent très complexe la maladie parce qu'il y a plein de voies de signalisation qui sont touchées. Pour ce qui est de l'argent mis dans la recherche, c'est vrai qu'on travaille énormément sur la recherche au niveau thérapeutique. Mais cette recherche au niveau thérapeutique, elle est passée par une recherche fondamentale qui existe depuis 20 ans, 30 ans. Si actuellement on met en place des traitements comme l'herceptin ou des anti-angiogéniques, c'est qu'on a compris les mécanismes du cancer. Et on a compris ces mécanismes du cancer parce que des milliers d'équipes dans le monde travailler là-dessus depuis 30 ans. Et pour la première fois, parce qu'on désespère dans le domaine du traitement du cancer, nous les cancérologues, parce que l'évolution sur le plan thérapeutique et l'amélioration du pronostic des cancers passe d'abord actuellement par le dépistage, je vous le rappelle. Plus on trouve un cancer tôt, et plus on a de chances de les guérir. Ça, ça fait déjà une différence. À cause de ça, les traitements font les progrès. Des progrès qui sont, je dirais, petits, des petits pas. Mais néanmoins, si on regarde le pronostic du cancer du sein sur ces 30 dernières années, eh bien on est passé peut-être de 50% de survie à 5 ans à 80-90% de survie à 5 ans. Le dépistage n'est pas quelque chose, mais les traitements également. Et en particulier, on voit que dans les pays où il n'y a pas de chimiothérapie, il y a une différence de 5 à 10% en matière de survie pour le cancer du sein par rapport aux pays qui les utilisent. Donc la recherche, elle existe à tous les niveaux, hein, fondamental, et au niveau de la maladie. Après, vous faisiez sûrement allusion à la prévention. C'est-à-dire, c'est extrêmement important, mais là, ça se fait aussi dans beaucoup de pays. C'est compliqué, je crois, la recherche en matière de prévention. En France, on est dans une démarche beaucoup plus médicale, beaucoup plus centrée sur le soin que sur la prévention. Mais les choses évoluent. Moi, je m'occupe maintenant de santé publique et je vois que les choses s'installent. On n'a sûrement pas les moyens. Dans le nouveau plan cancer, par exemple, l'immense majorité du financement va encore aux soins. Mais on voit quand même émerger de plus en plus la prévention dans la préoccupation des gens. C'est tout comme question que... Moi, c'est pas mal. Hein. Donc, on est en retard.
Oui,
Madame Bonnefoy va vous annoncer une...
Oui, c'est ça, vous le savez, monsieur Dabon.
Une pause plus courte,
10 minutes de pause. Et nous reprenons avec monsieur Pirot. Merci à tous et à nos modérateurs et nos intervenants. Merci.